Cascodeur Podcast, épisode 262. Interview Cloud de Confiance avec Quentin Adam. Enregistré le 1er juillet 2021.
Soutenez les Cascodeurs en vous inscrivant sur patreon.com/lescascodeurs pour une petite donation. Bonjour et bienvenue au Cascodeur. Aujourd'hui, nous allons parler de cloud de confiance, de cloud souverain, bref, de cloud et d'État français et de stratégie, enfin en tout cas d'objectifs de stratégie. Et pour ça, je vais discuter avec Quentin Adam. Salut Quentin.
Salut. Donc bonjour Emmanuel.
Ouais, on va rappeler qui tu es, mais le contexte, juste pour info, c'est Quentin qui discute, qui a une opinion forte, mais aussi, voilà, il y a pas mal de contextes que quand je vois un peu des résumés de certains gens qui sont pas mal oubliés, donc on va aussi faire un petit rappel de ce cheminement de la France autour de ce sujet-là, et puis évidemment échanger avec Quentin ses opinions, mes points de vue aussi, et avancer sur le sujet. Voilà. Donc Quentin, qui es-tu? Que fais-tu?
Donc je m'appelle Quentin Adam, vous pouvez me retrouver facilement sur Twitter où des fois les gens me connaissent plus comme ça, avec ce fameux pseudonyme intraduisible qui est WAXZCE, que certains prononcent moins et d'autres n'essayent jamais de le prononcer.
C'est Waxé.
Et je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Clever Cloud,
ouais. Tu
veux que... Ouais. Ouais, vas-y, dis.
Non, mais justement, c'est intéressant de Clever Cloud dans le contexte de ce qu'on va discuter. Donc, vas-y, explique un peu autour de quoi elle tourne, ce qu'elle essaie de faire.
En fait, Clever Cloud, ce qu'on fait depuis le début, c'est du cloud. Moi, je définis ça comme étant une plateforme de cloud un peu plus intelligente. C'est-à-dire qu'à la base, on est parti sur ce que certains appellent du platform as a service. Moi, j'appelle plutôt ça de l'automatisation, en fait, de l'infrastructure. Clever Cloud, c'est une plateforme donc de cloud qui aujourd'hui s'étend, fait du database, fait de l'IA, fait plein de choses. Mais c'est tu pushes ton code et nous, on va le déployer et le maintenir en conditions opérationnelles. Pour moi, la promesse du cloud à la base, celle qui était fournie dans JS, ce qui m'a excité dans le cloud, je vais être sincère avec vous, c'était Google App Engine. Google App Engine, j'ai trouvé ça très excitant, c'est-à-dire t'as du code, tu le déploies, et après c'est le problème de Google de faire en sorte que ça tourne. Moi, ce qui m'a frustré dans Google App Engine, c'est que ce que tu pouvais déployer dans Google App Engine, tu devais l'écrire pour App Engine. Ouais. Et que tu pouvais pas importer d'autres trucs et sortir d'App Engine et importer d'autres trucs et sortir d'App Engine. C'était d'aller dans l'écosystème de Google et tu t'enfermais dedans. Et moi, ce que j'ai voulu faire quand j'ai créé Clever Cloud avec des amis, c'était de dire, on va faire ce que fournit App Engine, mais pour tout le monde. Vraiment, c'était ça, en fait, l'idée de base, c'était de dire, ce qu'on te fournit, c'est le serverless, au sens du, il y a personne qui gère le serveur, c'est quand tu pousses ton code, à partir de ce moment-là, le maintien en condition opérationnelle, le est-ce que ce sera up, le pourquoi, le quel sens, la scalabilité, ne doit plus être ton problème. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Clever Cloud, on fait ça depuis 10 ans, et on est une boîte qui a une assez belle croissance, on est une boîte qui est pas du tout dans le modèle traditionnel VC, vu que nous, on a très très peu d'investisseurs, on a quelques amis qui ont mis de l'argent chez nous, mais on a des niveaux d'investissement en centaines de milliers d'euros très très bas. Et aujourd'hui, on a une boîte de 25 personnes avec des clients un peu partout dans le monde. Et en fait, on a également des grands comptes. On a une bonne partie du CAC 40 en fait qui utilise du Clever Cloud, pas toujours en étant conscient. On est des fois le fameux shadow IT du truc. Et puis, on a des grands comptes, des petits comptes, etc.
Alors, on va parler de cloud souverain, qui n'est pas le cloud de confiance dont vous avez entendu parler cette année, mais qui est quelque chose qui a démarré plutôt, je ne sais pas trop, 2012-2015, de tout ce que moi j'ai pu voir. Mais... Et alors, la définition, c'est un peu... chacun a la sienne, alors j'en ai trouvé une, puis après on va pouvoir changer là-dessus. Donc c'est un modèle de déploiement dans lequel l'hébergement et l'ensemble des traitements effectués sur les données par un service de cloud sont physiquement réalisés dans les limites du territoire national, par une entité de droit français et en application des droits et des normes françaises.
Donc. Ce qui est une bonne définition.
Ok.
La seule chose qui me choque un peu dans cette définition,
ouais,
c'est de dire jusqu'à quel point on comprend le software qu'on fait tourner. Et ça, je pense qu'on pourra en parler un peu plus loin. Mm-hmm. C'est, pour moi, il y a faire tourner un logiciel et comprendre le logiciel qu'on fait tourner. Ce qui est un sujet dont, enfin, sur lequel tous les développeurs sont quand même au courant, c'est la fameuse histoire de l'open source et du, bah, quand on ouvre une boîte noire en me disant ça fait ça et confiance, je suis pas toujours en confiance en tant que développeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, convaincre un développeur, par exemple, d'intégrer une librairie non open source dans son code, c'est devenu compliqué. Enfin, je veux dire, il y a 10 ans, ça se faisait beaucoup. Aujourd'hui, non, tu vas me demander une librairie open source et, je suis pas choqué par ça du tout. Aujourd'hui, je pense que dans la souveraineté, il y a aussi la capacité de contrôle de ce qui se passe dans le logiciel qui me paraît être un sujet important.
D'accord. Et donc, le cloud souverain, donc ça, c'est plus général parce qu'on voit qu'il n'y a pas de notion d'État en tant que tel, à part dans la notion de droit, mais il y a la notion plutôt de... Enfin, c'est aussi pour le civil. Et après, il y a le cloud d'État, de l'État. Et alors, j'ai trouvé une autre définition, ou en tout cas un objectif. Les technologies retenues, à la fois en matière de cloud privé et public, devront garantir la réversibilité, l'interopérabilité et la portabilité des applications. Bonne chance.
Ouais, en fait, pour bien déterminer, peut-être pour les gens, je dirais que d'un côté, on parle du marché du cloud et des fournisseurs de cloud en France. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir déterminer comme étant cloud souverain. Et de l'autre côté, on parle de l'État en tant qu'utilisateur. Donc l'État qui, en tant que DSI de l'État, prend des décisions de comment il va utiliser de l'informatique, comment il va essayer de faire ça, sachant que quand on dit DSI de l'État, faut imaginer qu'en fait, dans l'État, il y a des agences, des ministères, des collectivités territoriales. Enfin, il n'y a pas une personne qui prend des décisions. C'est toujours plus compliqué avec des gens qui.
Mais c'est pas que l'État central.
D'accord, tout ça. Voilà. Et c'est effectivement aussi les entreprises d'État. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui, à travers des entreprises, est aussi acteur de points importants de la vie économique. Si on prend la SNCF. Il y a qu'à voir ce que donne le pays quand il y a une grève. C'est important que la SNCF fonctionne. Tu peux pas en tant qu'État te dire je me désengage de la gestion des transports. L'État aura toujours un impact sur la gestion des transports et donc tu vas toujours avoir des agences de régulation qui décident sur certains sujets comment ça doit être traité. Il y a des agences, ça s'appelle l'ANFER dans le cas du transport ferroviaire. T'as d'autres agences dans le cas par exemple de la médecine. Si par exemple tu voulais mettre sur le marché un dispositif médical, chose qui ne m'est jamais arrivée, n'est-ce pas, tu devrais discuter avec la ANSM, qui est l'agence de sûreté du médicament et de la santé. Et ça, c'est dans le rôle de l'État. Il y a à la fois donc c'est comment se comporte le marché national de on est capable de fournir du cloud computing, et de l'autre côté t'as nous en tant qu'État utilisateur, quelles sont notre politique d'utilisation du cloud.
Ouais. Dans la sous-branche, je vais rajouter les opérateurs d'importance vitale, importance qui est vitale, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a un volet cloud et cloud souverain dedans, pas à ma connaissance, mais on
si,
sent
si,
que
si,
ça
y
fait
y
aussi
y a un
partie
volet dedans.
Des... Okay. Donc, on n'utilise pas n'importe quoi de n'importe quel fournisseur tiers derrière quand on est opérateur d'importance vitale. Et cette liste, je ne sais pas si elle est publique, mais en tout cas, elle contient quand même pas mal de EDF, j'imagine la SNCF, etc. Mais il y a, voilà, et leurs sous-traitants critiques. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui est plus grand que ce qu'on pense en général quand on pense à opérateur d'importance vitale. On se dit, ouais, c'est les gens de l'armée, etc. Mais c'est en fait beaucoup plus vague que ça, les opérateurs téléphoniques.
Alors, les opérateurs d'importance vitale n'incluent pas l'armée, qui a son propre truc à lui, qui est la défense. Et la défense elle-même a plusieurs niveaux d'implication dans la défense. L'armée, c'est vraiment un système en général, c'est un système à part. Et les gens, des fois, pensent que c'est une connerie, mais en fait, c'est une bonne chose que l'armée soit un système à part. Et de l'autre côté, les opérateurs d'importance différentes et spécifiques, parce que pareil, il y a deux niveaux, il y a les vitales et puis les capitales. Et en fait, eux, ce qu'on va labelliser comme étant un opérateur, c'est toujours une activité de l'opérateur. C'est-à-dire que tu vas jamais dire telle entreprise est opérateur d'importance vitale sur tout. Tu vas toujours requalifier des activités à l'intérieur de ce que fait une entreprise opérateur.
D'accord. Alors, de certains articles que j'ai vus, moi, les gens disent la réflexion des gens qui nous gouvernent autour du cloud et de sa souveraineté, elle commence avec 2001, les attaques du 11 septembre, et derrière le Patriot Act qui est né, qui commence à définir des règles en termes de capacité de l'État américain à aller voir un certain nombre d'informations, y compris qui est hébergé chez des boîtes privées américaines.
Yeah. Ouais, je dirais qu'elle recommence à ce niveau-là. Parce qu'en fait, le plan calcul et toutes ces choses-là étaient en fait une première itération de comment nous, on considère l'informatique et ce qu'on devrait en faire et pourquoi c'est important des souverains. Et ça, ça tire parti pour moi d'un truc qui est important, qui est une loi des années 70 en France, qui est, en France, on a écrit une loi qui est l'informatique et liberté. L'informatique et liberté, c'est une loi qui est capitale et qui est pas, qui est une exception mondiale, en fait, hein, comme façon de faire. Et cette loi-là dit que l'informatique pourrait devenir une boîte de Pandore si jamais on commence à faire des databases globales. Et moi, je sais que très souvent, je parle avec des gens qui me disent « Mais c'est quand n'importe quoi, ton numéro d'assuré social et ton numéro de retraité et ton numéro d'impôt, c'est pas le même. Pourquoi ils fusionnent pas tout ?» La raison pour laquelle on fusionne pas tout en France, c'est que c'est interdit. C'est interdit par un principe qui dit que si jamais on fusionne tout dans une grosse database, les chances de créer un État totalitaire sont trop importantes, en voulant bien faire, en fait, sont trop importantes, et donc il est interdit de créer des identifiants uniques pour les citoyens français. Les identifiants doivent être dans des contextes délimités à certaines responsabilités. Et en tant que technicien, et enfin, je parle d'un mec qui a conçu un ORM, en tant que technicien, ça nous heurte. C'est insupportable, on a envie de dire, mais non, tu peux pas avoir plusieurs clés primaires pour la même personne, c'est insupportable. Mais en même temps, en tant que technicien, on se rend compte aussi de la puissance de cette loi, qui est d'être, il vaut mieux parfois accepter, en fait, de comprendre que les gens sont différents selon les contextes, et que par exemple, quelqu'un peut être résident français, y compris un résident dont la légalité de la présence est discutable, et avoir une assurance sociale, et avoir une capacité à payer les impôts, et qu'en fait, le fait d'avoir une transcendance sur l'ensemble ne serait pas nécessairement une bonne chose. Parce que elle mettrait des gens trop facilement dans des cases, créerait un blocage dans la vie quotidienne qui est pas nécessairement une bonne chose, et que c'est important, en fait, de laisser aux gens la capacité d'être dans un contexte.
D'accord. Ensuite, donc là, t'es reparti dans les années 70, mais je vais réavancer dans les...
Donc ensuite, on a déconné, et notamment à la fin des années 90, en France, on a perdu petit à petit nos fondeurs et nos constructeurs. Parce que la politique industrielle de la France étant ce qu'elle est, on n'a pas nécessairement investi comme il fallait. Et en fait, on s'est beaucoup reposé sur notre allié américain. Et effectivement, en 2001, ça met l'accent sur peut-être que notre allié américain, parfois, va quand même regarder nos datas. Et effectivement, le Patriot Act se sert de l'antiterrorisme à la base comme prétexte, mais en fait, le Patriot Act en fait reflète aussi une réalité concrète qui existait déjà dans les services de renseignement américains, qui était effectivement cette capacité à aller chercher de l'info. Et après, c'est des programmes qui sont devenus des
espionnage économique.
D'espionnage économique. Si on parle du programme Echelon, par exemple, qui pendant longtemps a été considéré comme un mythe, puis révélé et sorti, c'est un programme d'espionnage économique qui se pose sur la collecte de données obtenues par d'autres moyens pour favoriser l'économie américaine, ce qui, enfin, s'écoute totalement d'un point de vue souveraineté économique des États-Unis, mais ce qui nous pose un problème, étant donné qu'on n'est pas américain, en fait, et donc du coup, ça nous pose un léger souci. Et la réalité concrète et tangible de ça, elle existe et elle a été démontrée. Moi, je pense notamment, alors il y a eu le rachat de cette énorme boîte d'analyse sismique pétrolifère dont j'ai déjà oublié le nom. Mais sinon, vous avez ce qui s'est passé avec Alstom, où en fait, clairement, et c'est documenté, c'est pas nécessairement l'enjeu de notre discussion d'aujourd'hui. Les États-Unis ont un arsenal juridique, et notamment un arsenal juridique qu'on appelle extraterritorial, qui leur permet d'utiliser un système légal pour aller chercher de l'information et pouvoir avoir des méthodes coercitives envers des entreprises étrangères de façon à favoriser leur intérêt économique. Donc dans le cas d'Alstom, c'est le rachat d'Alstom. Dans le cas de la BNP, c'est le frein du déploiement de la BNP aux États-Unis avec une amende. Et en fait, enfin, il y a quelques mécanismes qu'il faut comprendre pour bien comprendre comment c'est. Le premier mécanisme est de dire qu'à partir du moment où vous avez une transaction qui est faite en dollars dans le monde entier, c'est-à-dire que vous avez un Thaïlandais qui donne des dollars à un Chinois, le département du commerce extérieur américain considère qu'ils sont sous leur juridiction. D'accord? Vous utilisez des dollars, vous êtes sous juridiction américaine. C'est la première chose à comprendre. Et de l'autre côté, vous avez une deuxième loi qui est la loi anticorruption fédérale, qui dit que si tu essayes de corrompre quelqu'un d'employé par l'État fédéral ou un assimilé à l'étranger, tu tombes sous la loi anticorruption américaine. Ce qui paraît être une très bonne loi, et je suis pas du tout en train de dire que la corruption c'est cool, sauf qu'en fait, ils ont une définition extensive, large et discutable de la corruption, qui fait qu'en fait, un intermédiaire dans un contrat militaire, payé en dollars, et ben bam, tu tombes sous le cas, sous le coup de leur définition de la corruption, ou pas. Et c'est ce qui s'est passé dans Alstom, où en fait, Alstom s'est retrouvé avec une amende parce que Alstom, entreprise française, avait payé un Thaïlandais pour un contrat en Indonésie un frais d'intermédiaire à un intermédiaire donc en dollars, et donc Alstom s'est retrouvé sur une amende aux États-Unis sous prétexte qu'il avait tenté de corrompre un fonctionnaire fédéral, mais qui n'est pas un fonctionnaire fédéral américain, qui ne correspond en rien aux États-Unis, et donc coup d'amende. Alstom est racheté par General Electric. Ah, on a bien réfléchi, pour finir, ce n'est pas une corruption de fonctionnaire, annulation de l'amende. Donc c'est assez largement documenté et vous avez un bouquin hein, qui a été sorti par le numéro 3 d'Alstom à l'époque sur le sujet. Mais en fait, vous avez un arsenal juridique américain qui leur permet d'aller chercher de l'information pour des raisons sécuritaires, pour des raisons économiques qui sont assez larges là-dessus et ça les dérange pas. Ce qui moi me choque pas. Ce qui me choque, c'est de dire que ce n'est pas vrai.
Pas accepter cette réalité, de pas avoir potentiellement des contre-mesures ou des mesures équivalentes. Un exemple un peu plus récent, on entend parler du problème de l'EPR en Chine. La raison pour laquelle on entend parler, c'est que Framatome a fait une bêtise. Enfin, ils se sont dit, bon, il y a un truc louche, donc ils voulaient investiguer, et puis il y a un mec qui est bon, c'est un ingénieur américain. Donc ils ont envoyé les données, ils ont dit, bah, qui travaille pour eux? Et tu peux étudier ça parce qu'il y a un truc louche. Et il est citoyen américain et quand il travaille sur du nucléaire qui est lié à la Chine, il le déclare au département d'État. Et paf, bizarrement, ça a fliqué dans CNN ou je ne sais plus quel élément. Et du coup, il y a eu toute cette information qui a été rendue publique avec des points de vue un petit peu différents. Après, le problème existe. Les Chinois ne sont pas hyper transparent là-dessus, mais c'est un des autres moyens, en l'occurrence, de récupérer l'information et d'en faire usage. Donc, on va accélérer un peu. Edward Snowden, 2013. Alors, on n'est pas exempt, je pense, d'approche d'espionnage économique, etc. Mais là, ça devient quand même vachement plus visible, pas seulement du petit monde de la défense, on va dire, mais tout le monde s'en rend compte, et j'imagine un peu tous les politiques s'en rendent compte, et du coup ça doit réaccélérer ce sujet-là d'aller fouiller dans mes données.
Ouais. En fait, moi je dirais que Snowden, et je le remercierai jamais assez pour ça, moi ça faisait 10 ans que j'expliquais à tout le monde qu'il y avait un petit problème avec le fait de laisser toutes les données aux Américains. Qui est un premier problème, mais il y a un deuxième problème pour moi dont il faudra qu'on parle, qui est lié à quelque chose de très économique. Mais Snowden, ce qu'il a permis de dire, c'est « vous voyez, c'est vrai ». C'est pas un mythe, en fait. On n'est pas en train de fantasmer quelque chose. L'apport de Snowden, c'est de dire « c'est vrai ». Et dites-vous que Snowden, ses informations sont périmées. Voilà, pour vous la faire courte, Snowden est quand même maintenant sorti du circuit NSA depuis un petit moment. Je suis pas sûr qu'il soit réemployable par l'agence. Et du coup, c'est des projets qui, comme tous les projets, ont bien évolué et se sont bien construits. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas machiavélique. Mettez-vous dans les bottes d'un agent de la NSA. Il fait son job et il le fait bien. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais expliquer définitivement aux gens. C'est dire que quelqu'un fait quelque chose de mal, c'est pas nécessairement, c'est d'un point de vue, en fait. Et tu peux faire très très bien ton travail en faisant n'importe quoi. Je m'explique. Je vais donner un use case extrêmement simple pour le comprendre. Un policier, il cherche des criminels et il cherche à arrêter les criminels. Donc tu lui dis, on va mettre des caméras de surveillance partout, tu verras tout et tu seras capable d'arrêter tous les criminels. Il est d'accord. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous lui donnez le meilleur outil possible pour faire bien son boulot. Et donc c'est normal, chez toute force de l'ordre, il y a une tentation sécuritaire de contrôle absolu naturelle. Parce qu'en fait, c'est juste le meilleur outil qu'il puisse avoir pour faire son job. Et donc la reconnaissance faciale, il sera pour. C'est logique. Son job est de s'assurer que l'état de droit est respecté, que les citoyens sont en sécurité. Et on ne peut pas lui en vouloir pour ça, parce qu'en fait, il fait bien son travail. Et de l'autre côté, vous avez des gens dont le travail est de dire, oui, mais la liberté, le droit à l'oubli, la capacité à ne pas mettre en place un système totalitaire, sont des sujets importants. On ne peut pas les négliger. Je pense qu'il y a une mauvaise idée. Et c'est logique. Et en fait, les militants de la liberté, à ce niveau-là, sont dans leurs droits et ils ont raison. Et ce sont des gens qui te diront n'importe qui peut faire n'importe quoi parce qu'en fait, c'est légitime. Et en fait, à ce moment-là, ils n'ont pas plus tort que le policier et ils n'ont pas plus raison. Et le boulot d'un politique, c'est d'arbitrer qu'est-ce que la morale, qu'est-ce que la société, quel est le consensus intelligent d'équilibre des forces qu'on doit avoir entre les deux, et là-dessus, tu pourras ajouter les trois, parce que tu vas avoir un avis technique qui est de vous dire, aujourd'hui, la reconnaissance faciale, on sait la faire, ça marchera bien. Ou alors, on va être capable de faire de la reconnaissance, on peut tout filmer, mais pas avoir de reconnaissance faciale, et faire de la reconnaissance qu'a posteriori, ou faire de la détection anonymisée, la technique peut arriver avec des solutions. De l'autre côté, vous avez à voir les proches de victimes. Les proches de victimes sont toujours dans le plus jamais ça et sont toujours dans la vengeance. C'est normal, c'est humain et c'est sain, en fait. Par contre, il faut un équilibre de force. Et je pense que c'est ça qui est très important à dire, c'est que quand on dit que la NSA fait quelque chose qui est contraire à nos intérêts, à nous de Français, on dit pas que la NSA était vile. On dit que la NSA fait bien son job. Et ils peuvent s'enorgueillir de bien faire leur boulot. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout?
Ouais, ouais. Enfin, je vais représenter les auditeurs. Je vais dire oui. Bon, après, ça pose la question de est-ce que l'arbitrage est bien fait, mais c'est compliqué. Disons que c'est hors du scope de ce podcast.
Ah oui, j'ai pas du tout envie de parler de l'état de l'arbitrage de la vidéosurveillance et de la reconnaissance faciale. C'est juste que dans ce genre de débat, il me semble toujours important de respecter les gens avec qui t'es pas d'accord. Moi, je les respecte toujours. Et notamment, dans le cas du cloud souverain, je respecte mes contradicteurs. Je pense juste qu'à un moment, il faut pas être ennemi de ses intérêts. Et c'est ça que je trouve très important, c'est être capable de comprendre pour chacun quels sont tes intérêts, ce que tu dois faire dans la vie pour favoriser les intérêts de toi ou des gens qui vivent autour de toi et des choses que tu utilises. C'est ça qui me paraît très important.
Ouais. Donc, je continue à avancer sur mon histoire. C'était un peu le bordel, Snowden, ça fout un peu la merde. Donc, ils se sont dit, bon, ben, on va faire une loi quand même pour clarifier tout ça, qui s'appelle le Cloud Act, qui légitime certaines choses qui étaient un peu limites. Comme ça, la NSA peut faire son job et ne pas se sentir qu'elle allait au-delà de ses compétences. Et donc, l'État américain, par la loi, donne en fait accès aux données hébergées par les cloud providers américains, même hors sol américain. Je crois que c'est un peu le résumé du Cloud Act. Donc ça, c'est 2018. Donc ça, c'est du point de vue des lois qui ont influencé ce débat-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait au niveau français? Donc tu as parlé de la loi informatique et liberté, mais je vais parler plus focalisé autour du cloud dit souverain. La première fois que moi, en tout cas, j'ai entendu parler de ces choses-là, c'est un gros projet qui dit, on va prendre les gros acteurs technologiques, informatiques, français, plutôt liés à la sécurité, et ils vont faire un cloud comme les Américains, et comme ça, on aura le nôtre. C'est un projet qui s'appelait le projet Andromède, avec 135 millions de dollars d'investissement qui paraît gros, mais pour moi, me paraît pas si gros que ça. Si tu as vraiment une ambition d'avoir un truc massif. Et dedans, il y avait Thales Dassault Orange. Alors, ces gens-là,
Ebull.
ils s'aiment pas trop, donc ça passe. Et Bull, oui, pardon, tu as raison. J'avais complètement oublié Bull. Bull qui n'était pas Atos à l'époque.
Bulle qui n'était pas encore Atos.
Et je crois que Dassault est en désaccord assez fondamental avec Thales et Orange, donc ils s'en vont. Et en fait, se créent non pas un, mais deux projets qui a commencé à faire un peu la risée des gens dans notre univers. C'est que du coup, on va créer un projet qui s'appelle Numergy avec Dassault, Bull et SFR, et un autre projet qui s'appelle CloudWatt avec Orange et Thales, 75 millions chacun, que le meilleur gagne.
Ouais, 75 millions, premier shot.
Premier shot.
Il y a eu X shot.
Ouais. Les deux n'existent plus, je crois. CloudWatt a été, je crois, officiellement fermé. Numergy ne fait plus partie de la stratégie SFR. Donc, c'est un
SFR
peu
qui, de toute façon,
l'équivalent.
n'est plus français. Entre-temps, SFR
D'accord,
a été
vas-y.
racheté par Patrick Drahi via sa filiale qui est luxembourgeoise, donc l'SFR n'est plus
D'accord.
du tout une entreprise française. Enfin, le capital d'SFR n'est plus français. Donc entre-temps, en plus, on a fait n'importe quoi en donnant de l'argent pour finir une bulle boursière, certes capitalistiquement plutôt européenne, mais voilà. Donc
Ouais.
en plus, on n'avait pas demandé de garantie à ces acteurs-là de la pérennité de leur engagement patriotique.
L'offre.
Voilà.
Donc après, techniquement, pour info, ils s'appuyaient sur OpenStack et ils ciblaient pas mal le IaaS, en fait. C'était un peu leur entrée sur le marché.
Ouais, enfin surtout CloudWatt, Numergy était très très VMware. En fait,
D'accord.
l'idée de ces boîtes-là, c'est que moi, c'est un truc qui m'a toujours choqué en France. En France, les grosses boîtes estiment toujours qu'elles peuvent faire mieux que les petites. Dans les ministères, tu as énormément de gens qui sont entrés-sortis en permanence des très grosses boîtes. Et tu peux tenir la boîte que tu veux de 25 personnes très qualifiées qui a une croissance de fou. Quand tu vas voir un ministre, on t'accueille pour faire des photos. Par contre, pour discuter sérieusement avec toi, il n'y aura jamais personne. Parce qu'en France, on fait confiance aux grosses sociétés. Et les grosses sociétés, dans leur façon d'être, pensent toujours qu'elles ont raison et qu'elles seront toujours meilleures que les petites boîtes. Et donc, c'est pour ça qu'on a si peu de rachats de start-up en France et qu'on en attend aux États-Unis. C'est qu'à chaque fois que tu parles quelqu'un d'une grosse boîte et que tu lui proposes une solution, etc., sa première réaction est de dire, on peut embaucher 200 personnes et faire pareil. Il y a une volonté toujours de t'expliquer que un TJM est un TJM et qu'un jour-homme est un jour-homme. Et qu'en fait,
Ouais.
tu prends n'importe quel développeur informatique sorti des écoles françaises, trademark déposé, tu vois, il sera l'équivalent d'un autre développeur informatique. Et c'est pas vrai, en fait. On le sait tous autour de la table. Il y a des façons de faire en sorte que la boulot se fasse. D'abord, il y a des gens qui sont un peu plus géniaux que d'autres. Il y a du management différent. Il y a des façons d'être. Il y a des façons de changer le management à l'intérieur d'une boîte. Il y a des façons de focaliser, les intentions et la façon. Enfin, c'est pas parce que tu prends une équipe de 10 personnes et une autre équipe de 10 personnes avec, faites du cloud, tu vois, que tu vas avoir le même résultat. C'est pas du tout ce qui va se passer. Et en fait, ces grosses structures-là, par ailleurs, sont souvent dirigées par des gens qui ont lutté pour être à la tête de ces structures-là et qui veulent se dérisquer. Et en fait, l'innovation, par définition, ça contient une part de risque. Alors donc, c'est des gens qui vont prendre des solutions qui vont leur apparaître comme étant dérisquées. Donc, soit acheter des produits sur étagère, soit essayer de bricoler autour de quelque chose qui existe déjà, qui est open source. Et pour être très sincère, l'OpenStack, c'était ça, c'était comment on dérisque. Le problème, c'était que ce n'était pas comprendre ce qu'était OpenStack.
Ouais.
Moi, j'ai une lecture d'OpenStack en tant que contributeur OpenStack. Parce qu'à l'époque, les premiers 6 mois de Clevercloud étaient au-dessus d'OpenStack. Moi, j'ai une lecture de ce qu'est OpenStack qui est assez différente de gens qui sont des décideurs, puisqu'en fait, moi, j'ai été tapé dans le code de ce truc. À l'époque, il y avait une boîte qui s'appelait Rackspace. Donc là, elle a un peu disparu du paysage, mais à l'époque, Rackspace, c'était un des géants du cloud. C'était un des géants de ce marché naissant. C'était l'hébergeur traditionnel qui avait réussi sa migration dans le cloud. Après, ils ont déconné dans leur gestion et aujourd'hui, c'est plus une boîte d'infogérance et machin. Et c'est un peu triste, si on veut mon avis, mais voilà. Rackspace, c'est une boîte, ils ont dit, on va vous donner, vous hébergeurs traditionnels qui voulez nous rejoindre, on va vous donner OpenStack, qui est ce que nous on a fait pour réussir. À quel moment les gens font ça? Ça n'a pas de sens en fait. Et en fait, OpenStack, c'était fait par une. Moi, j'ai discuté avec les développeurs d'OpenStack. En fait, je te rendais compte, c'était des mecs qui bossaient pas chez Rackspace. Ils bossaient dans un autre bâtiment, c'était une équipe qui a été constituée pour, etc. Et moi, mon analyse, après, j'ai peut-être tort, mais mon analyse est que c'était un énorme brouillard de fumée dans lequel ont été spaumés des tonnes de gens. Parce que, enfin, OpenStack, très sincèrement, il y a 10 ans, ça marchait pas. Aujourd'hui, c'est difficile de le faire fonctionner. Il y a plein de trucs qui déconnent encore. C'était pas un truc rock solide. Et à l'époque, moi je sais qu'en version 3, la personne qui a écrit le code qui permet de vérifier s'il y a assez de RAM ou pas pour booter une VM sur OpenStack, c'est moi. Donc je sais bien que le machin pouvait pas être ça. Je sais très bien que c'était impossible que ce soit ce code-là qui tournait en prod chez Rackspace. Peut-être qu'il y avait de l'inspiration, peut-être que, etc. Mais ça n'était pas le code qui faisait tourner Rackspace. C'est impossible, en fait, à l'époque. Et pour moi, les gens ont été experts là-dedans et c'est ce qui s'est passé avec des gens qui sont engrainés sur ce dossier-là. Et moi, je me souviens, à l'époque, tout le monde avait un projet OpenStack. Et aujourd'hui, il y en a très peu des projets OpenStack qui ont survécu. Reste des projets où les gens ont embauché massivement des contributeurs. Chez OVH, qui fait beaucoup d'OpenStack, aujourd'hui, le nombre de gens qui bossent, qui sont contributeurs OpenStack, c'est 3 digits. Je connais pas le chiffre exact, mais c'est 3 digits de gens qui sont contrib OpenStack. Ça ne peut marcher que si t'es
Donc, trois,
contrib.
c'est 3 doigts sur 10, ou un chiffre à
C'est
trois,
ça.
ou un nombre à 3 chiffres.
Non, c'est un nombre à 3 chiffres.
Ouais,
Donc
je suis
c'est ça
impressionné en fait.
l'histoire. De quoi?
Bah, pas ça, 1000 plus quoi, tu vois, que chez OVH, tu vois. Ok.
Ah, mais c'est énormément de gens en fait. Et pour maintenir ce truc-là, voilà. Et pour moi, tu vois, enfin, c'est un, enfin, le sujet aujourd'hui. Non, c'est 100 plus, hein, c'est plus de 100, c'est pas plus de 1000.
Ah,
C'est plus de
pardon,
100 aujourd'hui
ok,
qui bossent, qui sont des gens dessus. Et je dis pas qu'aujourd'hui la plateforme est nulle. Enfin, je suis pas en train de faire un guerre de chapelle. J'explique juste que stratégiquement, pour moi, c'était à l'époque un nuage de fumée. Après, est-ce que tu peux faire du solide avec un nuage de fumée en bossant 10 ans dessus? Oui, sans doute. Et je suis pas dans le jugement de ça. Il se trouve que moi, j'ai pris une autre direction technologique parce que je préfère régler mes bugs que les bugs des autres. Donc, puis en plus, enfin, à l'époque, il y avait tellement de gens sur OpenStack que le sujet était extrêmement politique et que, en fait, tu passais ta vie à t'engueuler dans des mailing lists pour faire avancer le moins de dossiers et que moi, j'avais autre chose à faire de ma vie. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que en voulant se dérisquer, tu t'empêches d'innover. Et ça, c'est une erreur stratégique qu'on fait souvent en France, qui est de dire, bah, on va donner à Orange. Et je suis pas en train de dire qu'Orange est une mauvaise boîte. Orange fait tourner les télécommunications françaises. C'est pas du tout des nuls. Ils ont inventé des tonnes de choses, c'est des gens brillants. Mais si tu veux demander une innovation et si tu veux demander de prendre du risque, s'appuyer sur ces grosses boîtes qui sont patrimoniales n'est probablement pas une façon stratégique de le faire. Je sais à quoi c'est lié, hein. Tout politique, il a peur qu'on dise, t'as foutu 4 millions là-dedans, ça a rien donné. Oui, parce qu'en fait, prendre des risques, c'est ça. C'est faire du gambling. Et en fait, parfois, l'innovation, c'est faire du gambling. Et en fait, ce dont ils avaient peur, c'était ça. Et je pense qu'il faut accepter que quand on est en retard sur un marché, il faut aller plus vite. Pour aller plus vite, il faut l'innovation de rupture. L'innovation de rupture, ça a un taux d'échec. Et là, pour le coup, on a été juste à l'échec, quoi.
Juste pour compléter ça, donc Orange, qui s'appelait France Télécom à l'époque, avait la grosse R&D. Mais effectivement, comme tu dis, entre le projet R&D jusqu'à en faire un produit, ben, il y avait un peu de déchets. Et je pense que c'est dans les années 2000 où ils ont fait une externalisation active. En fait, ils disaient aux gens, on vous donne l'idée, on vous donne l'IP, on vous donne le droit de revenir dans les 1 an, 2 ans, 3 ans chez Orange. Allez monter votre boîte. Donc ils ont sorti ces gens-là et après on sera même vos clients. Voilà. Donc ils avaient au moins reconnu qu'ils n'étaient pas capables d'aller transformer ces idées en produits en fait.
Et en plus, quand tu es entrepreneur, tu subis une forme d'inconfort, une forme de pression, une forme de ligne de mort permanente qui souffle sur ta nuque, qui en fait c'est triste à dire, mais c'est aussi ce qui te donne des fois des idées géniales. Des fois, c'est le manque de ressources, des fois, c'est le manque de temps, des fois, c'est... il y a des tas de choses qui ne se font que parce que tu es dans cette forme de pression. On pourrait discourir de la qualité ou pas de ce modèle-là, mais il n'empêche que c'est pour ça qu'en fait, des fois, des toutes petites boîtes gagnent face à des grosses. C'est parce qu'en fait, elles sont mises en créativité réelle par la tension économique, temporelle, de ressources qu'elles ont. Et en fait, quand t'es dans une grosse boîte, t'as du mal à faire ça. Et c'est pour ça que les grosses boîtes rachètent les petites. C'est parce que c'est le moment où t'as innové et qui fait ça. Et en fait, le fait de nier ça, donne ce truc-là, en fait. Et donc, effectivement, tu te retrouves avec des boîtes qui ont du mal à innover parce que elles ont du mal à mettre les gens sur la brèche. Et c'est pour ça qu'on externalisait les gens chez Orange, parce qu'on leur donne la possibilité d'aller se mettre dans cette zone d'inconfort volontairement pour se donner cette capacité de créativité. Et en fait, aujourd'hui, si on fait le bilan de Claude Watt et Numergy, pour finir, beaucoup d'argent dépensé dans, pour finir, pas tant de ça de R&D et beaucoup de hardware et de licences américaines, etc. Donc en fait, encore une fois, notre balance économique qui part en déséquilibre, et en fait, on finance les autres. La boîte qui, pour finir, s'est fait le plus externaliser en R&D dans le cas d'OpenStack, c'était Innovance. Innovance, elle a fini rachetée par Red Hat. Donc en fait, encore une fois, on finance en fait des gens à l'étranger. Et le résultat concret du truc, c'est que un, on s'est tapé des pubs Claude Watt sur BFM Business non-stop, où t'avais Teddy Riner accroupi dans un nuage. C'est très bien le cloud avec Claude Watt. Donc moi, en tant que commerce à cette époque-là, je me tapais des questions de DSI qui étaient « Mais votre offre par rapport à celle de Claude Watt ?» J'étais là genre « Je peux pas vous répondre, en fait, il n'y a pas d'offre Claude Watt, en fait. » Et là, toi, t'étais traité de menteur, parce qu'en fait, Orange peut pas avoir tort. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont jamais sorti d'offre, en fait. Donc en fait, toi, t'étais un menteur. Donc, tu dépréciais ça. Nous, on a été assez préservés de ce phénomène-là chez Clever, mais en fait, il y avait un certain nombre de boîtes très intéressantes du domaine du cloud sur Paris qui se sont fait tirer tous les développeurs parce que Claude Watt recrutait 30% au-dessus des prix du marché. Et donc, en fait, plein de gens brillants ont été bossés dans cette boîte-là en pensant sauver le cloud souverain. Et en fait, ça a fini en autre boudin, comme on l'a dit. Mais en fait, au passage, on a buté toutes les boîtes pertinentes qu'on avait dans le domaine. Et vraiment, on en avait un paquet et qu'on a massacré, en fait, à ce moment-là.
Ouais, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'OpenStack, à cette époque-là, c'était loin d'être le gagnant. En fait, il y avait plein d'offres parallèles techniques pour essayer de faire le IaaS standard, en gros.
Exactement. Il y avait OpenStack, il y avait OpenNebula, il y avait des trucs chez Red Hat que j'ai oublié. Il y en avait plein. Et puis en plus, enfin, c'est pas comme si c'était si compliqué que ça d'en recoder un, très sincèrement, parce que parfois, quand t'essayes de faire le projet qui réunit tout le monde, tu cherches à faire l'arabe à fromage, repiqueuse à salade, grille-pain, et qu'en fait, c'est compliqué et que parfois répondre à tes besoins, c'est bien, et puis on verra plus tard pour les besoins des autres. Et il se trouve que dans OpenStack, ce qui a tant entravé le développement du système, c'est que tout le monde est venu contribuer dans OpenStack, et c'est donc devenu le produit qui fait tout. Et en fait, quand t'as un produit qui fait tout, t'intègres trop de contraintes dans ta gestion, et trop de contraintes, ça donne un produit qui est lent à faire évoluer, compliqué, etc. Et tu perds en vélocité face à des acteurs de l'autre côté qui vont vite. Ou donc, l'enjeu étant la vélocité, c'est un problème. Mais si on continue, ça a donné autre chose. Ça a enraciné dans la tête de tout le monde que, en fait, le cloud français, on pouvait pas y arriver. Donc, en fait, cet échec qui était prévisible, hein, moi, à l'annonce d'Andromède, j'ai dit que ça allait planter. Ça m'a valu de m'engueuler très fort avec les cabinets ministériels de l'époque. Ça nous a encore une fois plombé le « en France, on n'est pas capable de faire », alors qu'on est très capable de faire. Le truc, c'est que, à la fin, c'est pas on a perdu de l'argent, tu vois. On a buté notre écosystème, on a buté nos méthodologies commerciales et on a flingué l'esprit qu'on pouvait le faire. Et donc c'est même pas l'argent qu'on a dépensé dans l'histoire, c'est que on se replante, tu vois, en fait on dépense de l'argent pour se planter en finançant nos concurrents.
Mais ce que tu leur reproches, c'est pas tant d'avoir dit l'État va investir dessus, c'est plutôt de réutiliser classiquement les grosses boîtes avec les travers dont tu as parlé, ignorant un écosystème de start-up un peu en dessous, et d'avoir un pré-choix de partenaire plutôt qu'un truc, une solution cadre plus générique.
Correct? Exactement.
Ok. Donc, ils apprennent de leur échec. ils parlent à leurs amis allemands et qui avaient aussi une initiative parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Et de là naît un truc qui s'appelle Gaia X, qui est censé être le... alors, pour le coup, c'était pas une implémentation nécessairement, mais un espèce de méga partenariat à l'échelle européenne où on va définir les standards de sécurité, d'interopérabilité, portabilité des données, et les gens pourront se dire, je crois, Gaia X compliant. Je sais pas si j'ai... Je pense que c'est à peu près ça. Ouais. Vas-y.
GaiaX cherche encore ses contours. GaiaX, à la base, c'est les industriels allemands qui se disent « il nous faut une solution ». Donc vraiment, c'est l'industrie allemande qui a des vrais problèmes et des problèmes d'industrie 4.0. Il dit « il nous faut une solution et on préférerait mettre les données aux en Europe ». Les Français rejoignent le truc et ça prend de la bulle médiatique. Et là, c'est très important que je vous dise que en Europe, on aime beaucoup le concept de concurrence libre et non faussée et on l'applique comme si tout le monde jouait avec les règles du jeu. Aux États-Unis, la concurrence libre et non faussée, c'est un discours. C'est-à-dire que le contrat de Jedi, il finance les entreprises privées américaines. Quand on te dit SpaceX sort de nulle part et le mec dans le privé a tout construit, non, c'est pas vrai. SpaceX, il est surfinancé par des contrats de la NASA. Et qu'aujourd'hui, SpaceX, qui est un contrat privé qui vient taper et massacrer le marché d'Ariane, et Arianespace a ses échecs dans l'histoire, je ne dis pas le contraire, est massivement financé par l'État américain à perte pour prendre la main sur le marché. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a pas de financement aux États-Unis. La DARPA jette des millions d'euros, des milliards d'euros sur les États-Unis avec aucun problème. Boston Dynamics, qui n'a jamais rapporté un copec, est financé par la DARPA pendant des dizaines d'années sans aucune discussion. Parce qu'en fait, à un moment, la concurrence libre et non faussée, c'est vrai, mais pas totalement. Et donc, en Europe, on aime beaucoup dire que tout le monde joue avec nos règles. Et donc, quand on crée un truc pour favoriser les boîtes de notre côté, on crée toujours des mécanismes très compliqués qui sont censés garantir la concurrence malgré tout. Et le truc, c'est que dans l'implémentation de ça, à chaque fois, et quand je dis à chaque fois, c'est littéralement à chaque putain de fois, ça se transforme en un mécanisme qui vient se faire retourner et qui devient en fait une attaque sur ton marché. Je m'explique. Quand Google se fait condamner à échelle en milliards pour abus de position dominante sur le marché d'Android du moteur de recherche, et que Google propose une solution, c'est une solution d'enchère qui permet à tous les moteurs de recherche d'enchérir pour gagner la place de moteur proposée en première solution dans Android, et qui oblige tout le monde à avoir concurrence sur les enchères, sachant que les enchères sont administrées par Google, qui est le principal enchérisseur de l'enchère. Et donc en fait, là où avant il y avait déjà un problème de régulation, là il y a un problème de régulation qui en plus coûte de l'argent aux gens qui fournissent des moteurs de recherche parce que l'implémentation a été discutée. J'aimerais juste vous faire comprendre ça. Nous, à quelques acteurs, on paye des lobbyistes pour essayer de faire progresser notre vision sur les abus de position dominante, sur la liberté de la data. À chaque fois que moi j'aligne un lobbyiste, le rapport c'est que chacun des GAFAM m'en aligne 100. En fait, ces gens-là passent leur vie au Parlement européen à laver le cerveau des attachés parlementaires, des députés, etc. et vont aller chercher des petites modifications. Mon dernier combat en Europe, pour vous donner une idée, c'était dans le DMA, où on est en train de dire que pour nous, il faut des mesures conservatoires, on a un mot qui change, et on s'engueule avec les lobbyistes.
C'est quoi le DMA
pour... Le Digital Market Act, c'est l'encadrement, c'est la réglementation européenne d'encadrement des services digitaux. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que sur certains services digitaux aujourd'hui, il y a un problème d'accès au marché parce qu'il y a de l'abus de position dominante. Concrètement, la pandémie de Covid-19 commence, tout le monde est à la maison, et là, d'un seul coup, Google Meet, out of nowhere, débarque dans votre Gmail, dans votre calendrier, etc., poussé comme un barbare, tout le monde a déjà un compte, vous avez vu, et pour chaque événement, on vous a déjà créé votre réunion Meet. Bah ça, en fait, ça s'appelle un abus de position dominante. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ils prennent des parts sur le marché qui sont monstrueuses. Et en fait, c'est répréhensible. Et ils sont attaqués. Sauf que c'est comme pour Google Shopping. À la fin, on va gagner le procès. Google Shopping, ça nous a pris 8 ans. Sauf que les quelques coups, les machins, les etc. qui existaient entre-temps, bah ils sont morts. Et donc, en fait, Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut adapter les mesures là-dessus. Il faut prendre ce qu'on appelle des mesures conservatoires. C'est-à-dire que quand il y a une possibilité d'infraction au marché de la libre concurrence, il faut qu'il y ait une astreinte en millions à la journée de poser à Google pour qu'il n'ait pas le droit de faire ça. Parce qu'en fait, c'est des marchés qui se ferment les uns après les autres et qui font qu'on est incapable aujourd'hui de lancer nos champions européens face à ces gens-là. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un marché se lance, il se fait fermer immédiatement. La vidéoconférence en ligne devient un vrai marché. On avait plein de très belles boîtes qui auraient pu fleurir pendant le confinement. Qui est-ce qui a gagné de l'argent ? Microsoft et Google. Microsoft parce qu'ils ont poussé Teams comme des barbares. Vous avez déjà un contrat chez Microsoft, tenez, prenez du Teams. Et en fait, toutes les alternatives se font écraser par ça. Et je dis pas que c'est des mauvaises alternatives que ces gens-là proposent. Je dis juste que c'est une infraction au code de la concurrence qui, aujourd'hui, légalement, on a du mal à le faire reconnaître. Ça prend du temps et le marché se fait structurer en plusieurs années avant qu'on ait le temps de revenir dessus. Je sais pas si je suis clair.
Et en fait, Et pourquoi il n'y avait pas un Zoom européen ? Parce que Zoom, c'est celui qui a... Alors, en tout cas, sa capitalisation boursière a explosé.
Zoom qui aujourd'hui attaque quand même Google et Microsoft pour abus de position dominante aux États-Unis parce que ils ont déconné. Donc Zoom a explosé, mais t'as pas autant explosé qu'ils auraient pu, pour être tout à fait franc avec ce qui s'est passé. Mais pourquoi il n'y a pas de Zoom européen ? Mais en fait, il y a des Zoom européens. Il y a des Zooms européens, mais ils sont un, sous-financés, et deux, ils n'ont pas réussi à déployer, parce qu'en fait, comment tu déploies quand en fait, t'arrives, t'es déjà le concurrent, au lieu d'arriver sur un marché nouveau. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. Ok. Donc là, c'est...
Donc ça, c'est Gaia X, et donc, pour vous finir sur Gaia X, Gaia X, on crée ça. Donc nous, on est First Day Member de Gaia X, etc. Et en fait, Gaia X, on te dit, oui, mais pour que la concurrence soit libre et non faussée, il faut accepter les boîtes américaines. Et donc, tu te retrouves dans Gaia X à accepter Google, Palantir, Salesforce, etc. Enfin, genre, c'est la teuf. Et Gaia X, à la base, c'était favoriser l'adoption du cloud européen. Et maintenant, la baseline de Gaia X, c'est favoriser l'adoption du cloud dans les boîtes européennes.
Ouais.
Et voilà. Et ça, en fait, ça arrive tout le temps. C'est pour ça que il ne faut pas croire qu'il suffit de mettre en place des bornes. Là, ce qui est très important à comprendre, c'est que si on veut de la souveraineté technologique, il faut que ce soit un sursaut de tout le monde, y compris les gens qui appliquent. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, en fait. Et donc, GaiaX va continuer à se déployer, on va essayer d'en faire quelque chose, mais tu vois, on se fait déjà bouffer de l'intérieur. Je te donne un autre exemple pour que tu comprennes comment c'est fait. GaiaX émet un premier document technologique avec temps de réponse à donner à 3 semaines. Le premier document technologique de GaiaX, il y a eu 112 points de remontée technologique, de remontée sur ce document. Sur les 112 points qui ont été remontés, 110 viennent de chez Microsoft. En fait, ils ont des capacités à te mettre un manpower, tu vois, d'évangélisme, de lobbying, de poussée, qui fait que comment tu veux lutter contre ça ? Bien sûr que les mecs vont te reshaper comme ils le veulent, ce truc-là, tu vois. Parce que la seule bonne méthode, c'était de leur dire, écoutez, on vous aime beaucoup, mais vous n'entrerez pas. Parce qu'il faut qu'on crée notre propre marché, c'est important pour la survie économique de notre pays. Et ça, c'est, je pense, l'erreur, tu vois, qui est faite là.
Alors, on va parler du cloud de confiance et après, on va rezoomer sur cette idée-là. Est-ce que le cloud souverain ou le cloud de confiance, on parle effectivement d'une infrastructure pour que les boîtes européennes se sentent sûres, enfin, sécurisées au niveau de leur hébergement, de leurs données, ou est-ce que c'est aussi un aspect économique, comme tu le parles, avec un point une souveraineté technologique, en fait, c'est la façon dont tu l'as dit. Donc, cloud de confiance... Bruno Le Maire, c'est bon, j'ai trouvé la solution, ça fait 2 fois qu'on se plante, on va pas se planter une fois de plus. Ce dont on a vraiment besoin, c'est de pas que nos données soient extraterritorialisables, on a parlé du Cloud Act qui est la dernière en date, du coup, et on sait que bon, au final, notre software est nul. Et donc c'est là où tu vas monter sur sur ta chaise, mais voilà. Du coup, bon, de hardware, on a déjà vu, on a bu, on a Atos, tout ça. Donc on va le mettre en place en France ou en Europe. Et par contre, on va prendre des licences de logiciels pour mettre en place ce cloud. Donc, il sera un utile parce que de toute façon, tout le monde utilise les logiciels américains. Et par contre, on aura protégé nos concitoyens avec l'hébergement local. C'est le résumé, en tout cas, du point de vue de la press release et de l'approche qui a été expliquée par Bruno Le Maire, de ce que je comprends. Correct ?
Enfin, ouais, c'est ça. En fait, l'approche de Bruno Le Maire, c'était vraiment de dire ce qui serait bien, ce serait de licencier des technologies américaines, et c'est une bonne approche, etc. Il faut bosser avec les meilleurs. Sous-entendu, en France, on n'est vraiment que des tocards. Ce qui fait toujours plaisir, hein, parce que moi, je rappelle que nous, on tient une boîte où j'ai refusé plusieurs fois de la vendre, et notamment aux Américains, parce que je veux qu'il y ait un marché du cloud européen, parce que je pense que c'est sain pour nous, pour plein de raisons qu'on pourra évoquer plus tard. Et en fait, passer sa vie à se faire tirer dans le dos par nos ministres, c'est un peu fatigant, en fait. Des fois, on a envie de leur dire, genre, vous voulez pas juste vous arrêter de vous occuper de mon marché? En fait, à chaque fois que vous y touchez, vous foutez le bordel. Soit vous nous filez un coup de main, soit, en vrai, c'est aussi bien si vous faites rien. Parce qu'en fait, arrêtez de nous tirer dans le dos, c'est déjà pas facile. Mais si en plus on a l'impression de jouer contre vous, c'est pénible.
Ouais. Et donc j'espère que les gens ont bien compris. Donc il y a le grand absent qui est Amazon, parce que je crois qu'ils font pas de sous-licence de leur technologie, mais Google est un partenaire, Microsoft est un partenaire. Et du coup, en gros, si je résume, n'importe qui sera en gros un cloud, comment il s'appelle,
Cloud.
C'était quoi la norme avant? Secnum Cloud, voilà, plus, pourra héberger avec les deals qui vont bien, du Microsoft ou du Google technologiquement, et l'héberger par exemple chez OVH et vogue la galère.
C'est un peu ça. Alors, sachant que, du coup, si tu veux, moi, cette annonce, je l'ai trouvée très bizarre. Parce qu'en fait, l'annonce, c'était, on va créer la doctrine cloud de l'État. Alors, moi, déjà, je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire une annonce en disant, on va créer une doctrine. Genre, personne n'a envie d'entendre parler de doctrine. Mais admettons, à quel moment le mot doctrine est devenu positif, tu vois.
Mais c'est comme l'évangélisation, on essaie d'utiliser un peu moins ça.
C'est ça. La doctrine cloud de l'État, c'est-à-dire comment l'État, en tant qu'utilisateur, va utiliser le cloud computing. Et moi, ça me va, en fait. L'État dit, à un moment, on a besoin de moderniser l'État, moderniser les services de l'État. On va expliquer comment on va utiliser les outils informatiques à disponibilité, notamment d'automatisation et de cloud, pour moderniser l'État. Et moi, ça me va très bien que l'État fasse cette intervention-là. Pourquoi, par contre, quand tu fais cette intervention-là, tu demandes au MEDEF et au SIGREF de venir le commenter? En quoi les entreprises privées ont à commenter l'utilisation du cloud par l'État en disant « mais oui, mais nous, on va faire pareil ». C'est-à-dire que, pour moi, il y avait un mélange des genres dans cette annonce-là qui était un peu bizarre, tu vois. Et ça, je sais très bien par qui ça a été orchestré, et c'est complètement un coup de Microsoft, ce coup-là. Parce que c'est les évangélistes de Microsoft qui ont constitué ce truc-là. Donc, par ailleurs, il y a des gens dans l'État qui font un très bon boulot, parce qu'on passe notre temps à taper sur l'État. Moi, je sais que sur la modernisation de l'État, je tiens à mettre un accent là-dessus, et je veux aussi en parler dans la communauté Casque d'Or. Il y a un truc qui est sous l'égide du Premier ministre qui s'appelle Betagouv, qui crée un modèle très particulier qu'ils appellent les entrepreneurs pour le droit public, les entrepreneurs d'intérêt généraux, qui sont des gens qui créent ce qu'ils appellent des start-up d'État, qui en fait deviennent des contractuels de l'État, qui créent des services numériques pour des services de l'État ou des agences de l'État ou des choses comme ça, sur un modèle start-up, puis ensuite les réintègrent là-bas. Et moi, je trouve que le boulot qui est fait par Betagouv est incroyable. Et si vous êtes un développeur, freelance, etc., et que vous vous dites souvent « mais l'État, c'est pourri, ça marche pas comme je veux, il y a tel service, c'est une merde, et il faudrait en faire quelque chose », allez voir ce que fait Betagouv, et peut-être que vous pouvez devenir acteur, parce que le modèle, en plus, il y a une espèce d'agora, il y a beaucoup d'open source, enfin, c'est un modèle que je trouve brillantissime, qui a été mis en place chez Betagouv. Nous, on bosse avec un certain nombre de boîtes de Betagouv. À la fin, ça devient du service public, mais en fait, c'est vraiment un modèle pour essayer de disrupter dans la douceur l'État. C'est brillant, et faut pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain. L'État, c'est large, il y a beaucoup de gens, ils sont pas tous d'accord entre eux. Et vraiment, je trouve que ça, c'est un truc qui mérite d'être vu. Et si tu veux, je pourrais te donner des contacts aussi de gens intéressants dans Betagouv pour les interroger et savoir comment ça se passe.
Il faudrait, j'avais le nom de quelqu'un, en fait, il y a peut-être 2-3 ans, et en fait, j'ai raté l'interview d'y penser, d'aligner les bébés, qui avait parlé justement, je crois que c'était à Rivière à Dev, justement. Et il expliquait, voilà, en fait, ils disent, voilà, nous, on prend le modèle entrepreneurial, mais on le fait au sein de l'État avec une zone protégée. Alors, il y a des choses un peu compliquées parce qu'il y a les marchés publics, etc. Mais ils ont essayé de nous construire un petit cocon et on se lance. Et ils bossaient comme un âne, super motivé par son idée. Ouais. J'ai oublié le nom de cette personne. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est une bonne interview à mettre en place.
Donc la première chose, donc cette annonce qui est un peu bizarre, tu vois, c'est pourquoi les entreprises privées viennent commenter la façon dont l'État va utiliser le cloud computing. Ça n'a pas de sens, selon moi. Et cette annonce qui est de dire, bon, bah vous êtes mauvais. Bon, ok, admettons. Et derrière, ça enchaîne sur une autre annonce où en fait, out of nowhere, Orange et Capgemini annoncent qu'ils font une boîte faite pour acheter une licence Azure et que du coup, ils créent Bleu. Et dans les 20 minutes, t'as un communiqué de presse de Bercy qui te dit, c'est génial, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc la semaine d'après, alors que c'est évidemment des négos qui prennent des mois, voire des années, etc. Et donc en fait, on est sur une espèce de séquence bien programmée où tu vois la main des grosses entreprises d'État avec leurs lobbyistes etc. Et tu te retrouves une fois de plus dans ce genre de truc où on dit, bah voilà, on va mettre les grosses boîtes d'État et on va acheter de la techno américaine. Voilà, donc ça c'est l'annonce de Bleu. Je sais pas si c'était ça dont tu voulais aller, c'est ça?
Alors, c'était passé sous mon radar parce qu'en fait, c'est intéressant d'avoir cette interview parce que, donc moi, je suis pas à 100%, enfin, je suis censé quand même pouvoir connecter ces points-là. En l'occurrence, je l'avais pas à 100%, fait. Enfin, si, j'avais bien vu que c'était quand même corrélé en termes de timing. Voilà. Donc, c'est cool d'explicitement connecter les lignes.
Bah, en fait, moi, il y a plusieurs choses qui me choquent, en fait, dans cette ambiance. La première chose que je trouve extrêmement choquante, c'est le manque de réflexion économique. Dans la chaîne de valeur du cloud, tu vas avoir le hardware. Bon, bah, aujourd'hui, le hardware qu'on va acheter, il n'est pas français. Hein. On va acheter du matos qui est essentiellement asiatique sous IP et brevets américains. Donc ça, c'est dans la balance commerciale de l'argent qu'on met au loin. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi vous proposer. On va construire des data centers. Ok, génial, c'est du BTP. On sait tous qu'un data center, ça coûte cher, machin, mais c'est pas pour le BTP qu'on fait. Dans un data center, les équipements qui sont derrière, c'est des équipements comme les groupes froids. Les groupes froids, ils sont jamais français, ils sont allemands. Hein. C'est des automates électriques. C'est pareil, c'est beaucoup du Schneider. Bon, Schneider est quand même très gros en France. On peut estimer qu'il y a quand même une partie sur la construction d'essais qu'on va quand même récupérer là. Pas nécessairement la partie avec le plus de marge, mais voilà. Ensuite, t'as l'électricité. Bon, ça, pour le coup, elle est française. Il n'y a pas de problème. Enfin, ça, c'est notre électricité. On finance EDF Enedis. Là, par contre, je suis d'accord avec ça. Et il y a le réseau, bon an, mal an, ça va être peut-être français, pas français. Le réseau, ça va quand même beaucoup être du GTT, du Interroute, du etc. Je vous laisse aller plonger avec bonheur dans le monde des infrastructureurs qui se rachètent les uns les autres tous les 6 mois, le bordel imbitable que c'est de comprendre l'infrastructure réseau et le peering aujourd'hui. Et je pense que, faut pas qu'on entre là-dedans. On pourrait faire une heure dessus là-dessus à vous expliquer le côté complètement lol de ce monde-là. Et si tu veux, je peux te donner des contacts de gens avec qui on parlait, qui sont plus compétents que moi, qui sont les gens à qui je pose des questions quand moi-même je suis dans la merde. parce que c'est très intéressant d'essayer de comprendre le brick and mortar, en fait, de l'infrastructure. Après, on va dire, du coup, on achète le software aussi à l'étranger. Mais en fait, il nous reste quoi dans la chaîne de valeur? Le leasing pour acheter le hardware et le soft? Enfin, c'est light, quoi. Et donc, ça veut dire que ta balance commerciale, elle est complètement décorrélée, alors qu'on sait produire en local. En fait, si tu veux, moi, ce qui me choque, c'est ça, en fait. C'est pourquoi on n'a pas aujourd'hui une réflexion sur... dans la balance commerciale, on n'a pas une réflexion autour de ça. Et c'est un vrai problème qui, à mon avis, est fort. Et l'autre truc que j'entends...
Et ça, c'est lié au truc européen dont tu parles, c'est-à-dire que c'est dans un des principes fondamentaux de l'Europe, de la loyale, je me rappelle plus comment dire,
de la concurrence libre et non faussée, ouais. Ouais. C'est ça, et c'est aussi le fait de pas privilégier tes industries locales. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
ça découle, tu vois. C'est activement pas facile dans un framework de concurrence libre et non faussée pur de tes industries, en fait.
Et après, du coup, tu te retrouves à créer un label de cloud de confiance. Tu sais, moi, ma première réaction, ça a été de dire... T'as des conseillers ministériaux qui me demandent mon avis, et je fais, vous savez, les gars, de facto, Google, Amazon et Microsoft sont considérés comme étant des clouds souverains aux États-Unis. Ils n'ont pas passé de certif. Moi, tu me demandes de passer une certif. La certif qui, par ailleurs, est très compliquée. Puis après, on pourra revenir sur Secnum Cloud qui... En fait, Secnum Cloud, ça avait été conçu par l'ANSSI comme étant un sous-secret défense, réservé à quelques acteurs dans des contextes très particuliers. Et là, en fait, l'ANSSI s'est retrouvé embarqué dans ce bidule-là. Et tiens, on va mettre Secnum Cloud là-dedans. Donc, en fait, en off, ils sont pas très contents, en fait, parce que y a pas les moyens de certif, les machins, les etc. C'est un bordel sans nom. Et en fait, Secnum Cloud se retrouve détourné, revolvé, machin, tout ça. Et ça, tu vois, c'est habituel. Et en fait, on va te demander...
Est-ce que le niveau, il est trop par rapport à un cloud public c'est ça que tu dis aussi ou...
Le niveau est trop haut et surtout il est pas comme je le voudrais. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire des certifs, d'écrire, je veux dire, les certifs. Ouais. Et du coup, là c'est quand même une vraie perte de vélocité que d'aller passer ce truc-là. Et donc en fait, on prend nos boîtes et on leur dit mais pour avoir le droit de vendre à l'État, vous allez prendre ce truc-là qui va vous faire perdre un an de R&D. Et tu vois, c'est toujours le même problème. C'est bah, comment
ouais, c'est ça. Les règles supplémentaires, elles favorisent le joueur dominant puisqu'il a les moyens de payer, enfin d'investir dans sa dominance, en fait.
Exactement. Et en fait, le truc, il est, pourquoi ne pas juste avoir dit, bah en fait, c'est très simple, on ne prendra pas de boîte américaine, fin de la discussion. Et là, on va te dire, oui, mais c'est pas de la concurrence libre et non faussée, et tu fais, oui, enfin vous, pour le secret défense aux États-Unis, vous prenez pas de boîte européenne, eh ben la même, voilà. C'est pas très compliqué, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et c'est juste que il y a cette espèce d'apparence de sauver une espèce de beauté bureaucratique du respect des règles. Tu sais, ça me rappelle un peu des fois, tu sais, quand t'étais au JCP et que t'avais une espèce de truc du respect de la norme qui devenait à un moment au-delà du pragmatisme technologique. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Mais c'est souvent seconde main, tiens, alors juste parce que tu tapes dessus. Donc pour info, pour ceux qui savent pas, j'ai participé, donc j'ai même été fondateur de BIN Validation, qui est une spec. Et effectivement, il y a des gens qui deviennent plus royalistes que le roi, en disant, mais non, mais la spec dit ça, que ça soit... alors, BIN Validation, c'est plus simple, mais JPA, c'est la même. Et là, tu dis, attends, mais il y a l'esprit et la lettre, à un moment, faut arrêter, parce que c'est contre-productif et ça va définitivement pas dans l'esprit et c'est difficile d'écrire une spec. Donc, des fois, ben, la lettre, elle est pas aussi alignée que, enfin, avec l'esprit que ce qu'on aimerait. Et les gens se surrestreignent, malheureusement, ouais.
Là-dessus. Et ça donne des vraies catastrophes, quoi. Enfin, à mon humble avis, ça donne des vraies catastrophes. Je viens pour ça.
Ouais.
Donc, du coup, ouais. Donc du coup, il y a ce point-là qui est c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est de ne pas comprendre. En fait, le software est encore une fois passé au second plan. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que la discussion, nous, on n'a jamais été mené à cette discussion. Tous les infrastructureurs ont été liés à cette discussion. Et en fait, t'as vraiment l'impression que dans la tête, c'est le hardware, le hardware, le hardware. En fait, le hardware n'a pas tellement d'importance que ça, c'est le soft aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Vous prenez du Amazon Lambda en temps de compute et vous le comparez à du cloud, même pas du serveur dédié, hein, mais du cloud chez OVH, le différentiel de prix, c'est que Lambda est 150 fois plus cher à la milliseconde que du cloud OVH. Donc de là, il y a deux hypothèses. Soit Amazon ne s'est vraiment pas acheté son hardware et l'achète, mais tellement plus cher qu'OVH, tu vois. C'est une hypothèse sur laquelle, moi, personnellement, je n'irai pas. Tu vois. Soit, en fait, ce que tu payes, c'est le soft. Et la marge que tu prends, c'est le soft. Et qu'en fait, pour finir, le hardware dans l'opération est un coût marginal. Voilà, littéralement, et nécessairement en dessous d'un 150e du prix. Ce qu'on peut appliquer à un coût marginal. Et en fait, le soft, c'est là où il y a de la valeur, c'est là où il y a du fric.
Après,
en
fait, ce que t'achètes, c'est la flexibilité, hein, quand même.
Ah oui, oui, non, mais attends, je dis pas le contraire. Mais si tu veux, la flexibilité, tu l'as tout pareil dans une instance chez OVH que dans un lambda. Ce que t'achètes dans un lambda, c'est le framework lambda. C'est l'orchestration lambda. C'est l'automatisation autour de lambda. C'est le fait que ce soit un plateforme as a service proprio. En fait, lambda, pour moi, c'est la même chose que Google App Engine à grande époque. Tu vois, avec les mêmes métriques de consommation, le milliseconde de run, le nombre de requêtes, etc. C'est ça. Sauf que ça a été brandé serverless. Donc, voilà. Mais c'est ce qu'on fait chez Clever, en fait, aussi, quelque part. Mais en fait, ce truc-là, ce que t'achètes, c'est le soft. Et il se trouve qu'en France, on nous pique nos ingénieurs, on vient créer des trucs, nos ingénieurs sont vendus partout dans le monde parce qu'on est bon en soft. Donc en fait, venir dire qu'on n'est pas bon en soft et se tirer une balle dans le pied, c'est contre-productif d'un point de vue réalité technique et économique de notre produit. La deuxième chose, c'est de dire la guerre du cloud, elle a été perdue. Aujourd'hui, le cloud, c'est un marché qui est monstrueux, on est tous d'accord. Sauf qu'en fait, il fait 18% de sa projection à 2029. Autrement dit, la guerre du cloud, elle n'a pas eu lieu. On a commencé les escarmouches. Mais le travail de sape, de lobbying, notamment de Microsoft, est de dire on a perdu la guerre, on a perdu la guerre, on a perdu la guerre, on a perdu la guerre. Et donc, à la fin, les gens croient qu'on a perdu une guerre qui n'a pas eu lieu. Et donc, du coup, on ne se pointe pas sur le champ de bataille. Et là, effectivement, on a perdu la guerre. Et donc, il faut arrêter de croire ça. Et ça, je le dis à tous les développeurs qui passent leur temps à me dire « Mais de toute façon, comment vous allez faire face aux géants? On a déjà perdu. » Non, c'est pas vrai. On a une croissance aussi forte, si ce n'est plus forte qu'Amazon aujourd'hui. On part de plus petit. Mais en fait, il suffirait de nous soutenir un tout petit peu pour pouvoir démultiplier cette croissance-là. Parce qu'en fait, économiquement, c'est important. Et pourquoi c'est important? Parce que, et ça, j'ai donné plein de fois à cette conférence-là où j'explique que l'informatique, c'est la révolution industrielle du secteur tertiaire. Donc, c'est l'industrialisation de la prestation intellectuelle. Et donc, en fait, l'informatique, c'est des métiers qui reposent dessus. C'est des marchés entiers qui reposent dessus, comme les secteurs énergie, comme les secteurs mécaniques, toute cette mécanisation qui a eu lieu au 19e siècle. Et sur le coup, pour le coup, l'Europe, on était bon, puisqu'on était les pays industriels. Et en fait, aujourd'hui, ne pas avoir de racines pour construire ces métiers-là, ne pas avoir de capacité de production dans ces métiers-là, fait que sur tous les autres métiers, quels que soient les métiers sur lesquels on va en face, une partie non négligeable de la marge va partir et continuer à appuyer sur le déficit de notre balance commerciale et le déficit de notre balance des paiements courants. Donc là, je fais un tout petit peu d'économie pour faire clair. Je vais vous le faire de façon très simple. Le déficit la balance des déficits des paiements courants, c'est quoi? C'est que, en fait, il y a plus d'argent qui s'entre et s'y sort, et surtout on a plus de frais chez nous. C'est-à-dire c'est le fameux moment où une boîte investit chez toi, où on te dit c'est génial, Google investit à Paris. Et effectivement, Google investit à Paris et embauche des ingénieurs français. Sauf que tout le rendement financier des ingénieurs français à Paris ne reste pas en France, ça devient de l'argent qui est filé pour payer les fonds de pension. Donc en fait, si tu veux, la création de valeur générée en France paye les retraites d'employés au Kansas, en fait, si vous préférez. Et donc, en fait, ça génère un appauvrissement structurel de ta capacité d'autofinancement du pays. Et la deuxième chose qu'on appelle la balance commerciale, c'est globalement, il y a combien d'argent qui rentre, combien d'argent qui sort. La seule chose qui fait qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir la balance commerciale qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est de l'euro. Et donc, en fait, tout le monde est prêt à te prendre de l'euro. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'argent qui sort de France tous les ans qu'il y en a qui rentre. C'est-à-dire qu'on fait pas assez d'exportations. Et ça, c'est lié à plusieurs choses sur lesquelles on pourrait en parler, et puis qui sont eux-mêmes des sujets à débat. Mais dans un sujet où on est fort, venir plomber ta balance commerciale, et en plus la plomber structurellement, parce que tu es sur quelque chose qui est une brique racine qui va déployer du commerce et du marché dans la suite, en fait, tu crées un déficit structurel du pays à échelle 15 ans, qui fait que n'importe quelle boîte de la French Tech, un peu social, machin, Snapchat, tu vois, en fait, une partie non négligeable de la marge de Snapchat ne va pas à Snapchat, elle va à Google. Quand les deux sont américains, c'est pas grave, tu consolides de la marge américaine. Chez nous, ça veut dire qu'on va systématiquement supprimer de la marge. On peut mettre ce qu'on veut comme boîte à créer de l'intelligence, de la performance financière, etc., au-dessus de computation dans le cloud. On va systématiquement perdre une partie de la marge, se faire espionner par ailleurs les datas de ce truc-là et donc perdre des capacités, et etc. Mais si tu veux, Par ailleurs, c'est une erreur économique fondamentale. C'est comme si on avait dit au 19e siècle, l'énergie, on va pas s'en occuper, on va acheter toute notre électricité à côté. Et tu vois, c'est, au moment où je te le dis, tu me dis, mais c'est complètement con. Et après, il y a un troisième volet qui est lié à la fiscalité, qui est que ces boîtes-là ne payent aucune fiscalité. Donc, Amazon, aujourd'hui, sur AWS, ils utilisent le réseau cuivré et fibré français qui a été payé essentiellement par nos impôts et rentabilisé ensuite, mais c'est des infrastructures qui ont été payées par nos impôts. Quand ils font de la livraison, ils utilisent nos routes, sur lesquelles ils payent zéro taxe, et donc on leur laisse utiliser cette infrastructure, et avec ça, ils font de l'argent. Normalement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est comme tu payes tes impôts sur les sociétés, bah, ça va, ça s'équilibre. Sauf que ces gens utilisent des mécanismes d'évasion fiscale légaux. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont illégaux, je dis qu'ils sont immoraux. Ce n'est pas la même chose. Et du coup, se soustraignent à cette part de collectivité. Autrement dit, toutes les entreprises et ménages français payent aujourd'hui pour favoriser la croissance et la marge d'entreprises qui ne rapportent pas au final à notre nation. Et notamment, ça va se retrouver dans le système de retraite, etc. Là, le débat sur le système de retraite se rouvre, mais rouvrons-le. Le débat sur le système de retraite, c'est qu'on s'appauvrit, et on s'appauvrit parce que nos investissements locaux ne sont plus des investissements qu'on garde pour nous. C'est ça l'histoire.
Et où est-ce que tu mets la limite, parce que tout ça c'est un peu le curseur, entre protectionnisme, isolationnisme, qui est l'extrême de ce que tu dis en fait quand tu pousses à fond le curseur, versus ce dont on parle, donc la libre, la concurrence libre et non faussée, y compris de gens qui n'appliquent pas les mêmes règles que toi. En fait, voilà, on a deux extrêmes là. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut être stratégique sur certains sujets fondamentaux ou à fort levier, et qu'il faut aller se rapprocher un peu d'une, en gros, d'une préférence européenne ou nationale. Ou d'une protection européenne ou nationale sur ces éléments-là, plutôt que le dogme de concurrence libre et non faussée.
Moi, ce que je dis, c'est que les deux sont vrais, en fait. Ouais. La concurrence libre et non faussée, elle va dans les deux sens. Aujourd'hui, moi, ce que je demande, et ce que je demande en permanence au 440, c'est laissez-moi jouer. À chaque deal, vous allez consulter Google, Microsoft, Amazon. Et jamais moi. Moi, j'ai un taux de succès, je pourrais ouvrir mon CRM, on a un taux de succès sur les réponses à nos deals qui est délirant, qui est au-dessus de 80%, ça bouge tous les mois, mais on perd très peu de deals. Mais en fait, on joue pas, on nous invite pas à jouer. Donc la concurrence libre et non faussée fait dire, je vous demande pas de me préférer, je vous demande de me laisser répondre. Je vous demande de tester le produit. Moi, ce que je dis à tous les développeurs de France, c'est pas utiliser Clever parce que c'est souverain et que c'est important pour la sécurité de nos hôpitaux, pour la sécurité de nos données, etc. Je suis pas du tout là-dedans et j'ai pas envie de vous emmerder. Ce que je vous dis, c'est venez essayer. Venez nous dire ce qui marche pas. Venez nous dire ça, c'est pourri et c'est pas ce qu'on a envie d'acheter. En fait, aujourd'hui, le problème qu'on a quand t'es un petit acteur dans un monde avec, comme ça, de l'exploitation de dominance de marché, c'est laissez-nous la chance de rentrer sur le marché. Et je dis ça encore une fois, hein, j'ai une croissance monstrueuse. La boîte double tous les ans, tout ça. Mais laissez-nous jouer. Vous voulez que ça marche, laissez-nous jouer. Et faites-le, quand je dis Clever, ça marche pour OVH, ça marche pour Scaleway, ça marche pour Scalingo, je suis ouvert. Ça marche pour RapidSpace, je suis ouvert.
Mais voilà l'histoire, c'est qu'à un moment, tu dis, enfin, on a parlé un peu avant, là, Google Meet, à but de position dominante. En fait, c'est ça le truc. C'est que quand les gens ils disent « moi, je veux une solution cloud », en fait, on le sait que, en gros, en tout cas dans les années 90, on savait que les boîtes elles étaient quand même essentiellement tournées avec Excel et Access, et qu'effectivement, on avait aussi du soft pour Prio pour des gros trucs, mais en vrai, on faisait beaucoup tourner. Et donc, quand tu regardes ça, ce que Clever adresse, c'est l'appli spécifique. Mais qu'est-ce qu'on fait du document, du tableur? Tu vois, c'est d'autres choses. Où là, pour le coup, c'est... Tu vois, les gens à la maison, ils utilisent Google Doc. Et donc, des fois, on leur impose d'utiliser Teams parce que Word, et bon, ils acceptent, voilà. Mais je ne sais pas si on a une offre ici viable aujourd'hui.
En fait, on n'a pas d'offre structurée qui fait tout en workspace. Ouais. En fait, on a des boîtes qui font des mails, on a des boîtes qui font des docs, tu vois, en français, et dans lequel il y a par exemple les amis d'XWiki, tu vois, t'as CryptoPad, tu vois.
Ouais.
Et CryptoPad, c'est un soft qui est impressionnant, mais tu vois, il manque des trucs pour l'utilisabilité, et en fait, ça, c'est un peu d'argent. Et en fait, même si c'est des boîtes qui font du résultat, je suis pas en train du tout de cracher sur mes petits copains en disant qu'ils sont pas assez
frics, moi, tu vois.
Mais ouais, ils te tuent l'amour parce qu'il leur manque. Ouais, mais en fait, tu as un peu envie de dire, genre, faudrait quoi pour que CryptoPad soit vraiment très agréable à utiliser par ma grand-mère? Allez, il manque 4 millions, quoi, tu vois. Il manque pas grand chose, tu vois. Il manque de donner la fluidité en faisant bosser un peu un designer, un peu plus de dev front, tu vois. Pour que Clever, il nous manque l'IAS, il nous manque 2 développeurs pendant 6 mois. Donc on est en train de le faire, tu vois. Mais on aurait 2 développeurs de plus pendant 6 mois, ça irait, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, il nous manque pas tous beaucoup d'argent pour être capable de monter, mais tu peux dire aujourd'hui vous êtes pas au niveau, on va utiliser vos concurrents, mais soit tu nous finances, soit tu nous files des bouts, soit tu nous permets d'exister. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand on t'a pris un retard stratégique, soit on décide qu'on ferme le dossier, on plie, puis à la limite dites-le moi franchement, puis moi je vais vendre la boîte, et puis je deviens ricain et ça me vient très bien, tu vois, ça me va. Soit on se dit que ce qu'il faut, c'est se dire, quand on est en retard, on va mettre les bouchées doubles. Tu vois, et donc on va vous réserver des marchés, on va demander aux boîtes de tester vos solutions systématiquement, de vous faire du retour, on va systématiquement investir chez vous. Nous, tu vois, il y a des boîtes avec lesquelles on a des très belles relations, tu vois, des gens comme la Maïf, c'est une énorme boîte, et ils pourraient nous avoir dit non, tu vois, ils bossent avec nous, et quand il y a un problème avec nous parce qu'on n'est pas assez gros, parce que parfois on n'a pas le même bon réflexe, etc., c'est des gens qui se posent et qui nous disent, écoutez, là-dessus, on peut faire ça, ce qu'on aurait besoin, c'est que vous fassiez ça, et comment on peut s'arranger? Est-ce que c'est dans votre roadmap de toute façon et vous allez le financer, ou c'est dans votre roadmap et c'est loin, mais ce qu'on peut faire, c'est vous donner un chèque, tu vois? C'est comment tu t'arranges pour créer ton écosystème local? Et moi, ce que je comprends pas, c'est des boîtes d'assurance, tu vois, donc dans le cas présent, pas Maïf, qui mettent tout chez Amazon et Google, alors qu'on sait tous qu'ils vont débarquer dans le secteur assurantiel, tu vois? On le sait tous que ça va finir comme ça. Et aujourd'hui, bah, enfin, comment tu fais pour alimenter ton propre concurrent de demain? Moi, je me souviens de discussions surréalistes avec des gens du retail dans le Nord qui me disaient, mais on va utiliser Amazon, c'est la meilleure solution, et ils viendront jamais sur les hypermarchés. Ou tu vois, tu parles avec des gens qui font de la livraison et qui te disent, on va utiliser Amazon, parce que aujourd'hui, les mecs, c'est 40% de notre chiffre d'affaires et jamais ils viendront dans la livraison. Enfin, c'est toujours la même histoire, tu vois, tu prends et tu remontes la chaîne de valeur. Et t'as les données, donc tu remontes la chaîne de valeur. Et quand Amazon rachète Whole Foods, les mecs tombent du nu en disant, ah, peut-être que c'était pas une bonne idée pour finir. Ben non, enfin, non, c'était évidemment pas une bonne idée. Évidemment que c'était pas une bonne idée. Et tu vois, sur les médias, quand on te dit, mais Amazon dans les médias, ils ne seront jamais dangereux. Ils ont racheté la Ligue 1. Ah. Ouais. Et puis bah pardon, Covid, tous les cinémas
allaient partir. C'est un peu un clusterfuck en l'occurrence, tu vois, ils auront acheté, mais c'est pas comme si ils ont pas été aidés par des facteurs extérieurs, tu vois.
Oui, mais ils ont été aidés par les facteurs extérieurs parce que t'as des fois une assurance, et notamment des grandes boîtes françaises. Moi, je me souviens de discussions avec Canal+ bien avant l'arrivée de Netflix, où je leur disais, vous devriez sortir une offre agressive pour contrer l'arrivée de Netflix. Non, vous inquiétez pas, on n'aura jamais de problème avec Netflix. Jamais ils s'implanteront. On en reparle aujourd'hui. Et à l'époque, mais tu voyais ça, mais c'était le nez au milieu de la figure. Et les mecs te disaient, non, la vidéo à la demande chez Canal+, c'est 60 balles par mois, et la plateforme est à chier. Ben oui, évidemment que ça va planter, les gars. Enfin, évidemment que ça va planter, tu vois. La bonne approche, c'était de dire, on descend à 15 balles par mois, et on met une équipe de développeurs à travailler sérieusement sur faire une application aussi propre et aussi agréable à utiliser que celle de Netflix. Et là, on pouvait aller lutter. Et aujourd'hui, ils descendent, ils vont dans la compétition. Sauf qu'en fait, la compétition, ils se sont créés leurs compétiteurs, tu vois, sur leur marché qui tabassent. Et aujourd'hui, quand Amazon débarque et commence à acheter des compétitions sportives, ben, tu vois, ils ont commencé par acheter des compétitions sportives pas chères. Puis aujourd'hui, tu vois, Prime commence à s'implanter, la Early Majority l'a abonné. faut qu'on aille chercher des gens un peu majority jetlagués, on sait pas trop, qui vont pas suivre ce genre de truc. On va acheter la compète de foot. Et puis les gens qui ont acheté Prime, du coup, vont aller acheter le Prime, vont se servir du livraison en Prime. Et derrière, regarde l'effet que ça va avoir sur les ventes de la Fnac, de Rue du Commerce, etc. Et c'est ça, en fait, c'est systémique. Parce que c'est des boîtes qui sont trop grosses, tu vois. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'à un moment, tu peux pas lutter contre la marée. Tu sais, quand j'étais petit et j'allais à la plage sur la façade atlantique, tu sais, tu construisais un château, tu sais, sur le chemin de la marée montante. Tu étais là, genre, ça marchera, tu vois, je vais lutter contre la marée. Tu peux pas lutter contre la marée, tu vois. Donc, à un moment, il faut réussir à être ninja et il faut être prêt, des fois, à killer ta rente pour aller dessus. Et ça, une grosse boîte, c'est pas le faire. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur des petites boîtes parce que n'ayant pas de rente, elle a déjà peur. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis clair du coup dans mon approche.
Non, parce que du coup, pourquoi parce que l'État, il voit la marée, et il dit ce que tu dis, tu vois. Bon, mon château, je vais pas pouvoir lutter contre la marée. Donc vas-y, réexplique pourquoi, comment tu luttes contre la marée amazonienne, ou googlienne, ou microsoftienne.
Pour moi, pour lutter contre la marée, les points importants, quand tu veux gagner contre une marée, un, il faut être ferme. C'est-à-dire qu'il faut se dire, il faut être prêt à perdre de l'argent maintenant, investir maintenant, pour ne pas tout perdre ensuite. C'est-à-dire que si tu veux un château, c'est le moment d'aller construire un château un peu plus haut, tu vois, sur le sable. Et il faut pas se dire qu'il suffit de couler du béton à cet endroit-là. En fait, à un moment, la marée sera là, quoi. Donc va tout de suite construire ton château dans le sable, il sera plus gros quand la vague arrivera, et peut-être qu'il tiendra. Alors que si tu mets tout sur le truc qui est de toute façon déjà perdu, ça ne sert à rien de se battre. Et ensuite, il faut tous qu'on soit conscient de ce problème-là. Aujourd'hui, la plupart des développeurs ont l'impression que les Américains sont nos amis. Ce sont nos alliés. Et on est potes avec eux. Et moi, j'ai plein de potes qui bossent dans des boîtes américaines et je m'entends très bien avec eux et ça me va très bien. Pour autant, il faut qu'on constitue un marché chez nous. Et pour constituer un marché chez nous, il faut faire quoi? Il faut tester les solutions des Français. Il faut les aider à s'améliorer. Et parfois, il faut être prêt à acheter en promesse d'amélioration. Parce que c'est la seule solution si on veut que ça existe. Et faut revenir à des fondamentaux. Moi, quand on me dit, oui, mais vous n'avez pas autant de services qu'Amazon, je dis, oui, j'ai pas autant de services qu'Amazon. Enfin, là, concrètement, t'as un WordPress à coller avec un MySQL, donc si tu veux.
Oui, alors, mais ça, c'est classique. Mais c'est classique de toute négociation. Le gars, il dit, non, mais peut-être qu'un jour, j'irai sur la Lune. Non. Enfin, tu. C'est Jeff Bezos, donc voilà, tu iras sur la Lune, mais sinon, non. Mais ça, c'est, tu le vois dans, c'est depuis l'origine des temps, quoi. Enfin, en tout cas, depuis que tu es né.
Ah, mais clairement. Mais si tu veux, aujourd'hui, l'illusion sur le cloud de confiance, qui est de dire, on va acheter la technologie de Microsoft et on sera sûr de savoir ce qui marche dans le logiciel. Aujourd'hui, moi, le chiffre que j'ai, je sais pas jusqu'à quel point il est fiable, c'est qu'il y a 40 000 commits à la journée dans Azure. Et il y a un moment, du coup, comment on fait pour être sûr que dans les 40 000 commits, il n'y a pas une backdoor quand tu t'appelles bleu? Je ne vois pas comment ça va se produire, en fait. Et en fait, c'est évident que le fait de sacrifier le logiciel, c'est sacrifier l'intelligence, c'est sacrifier l'automatisation, et c'est une approche qui va nécessairement nous coûter cher. Et tu vois, après, c'est comme d'hab, c'est les petites tractations de l'État. Enfin, on en a parlé avec Next Impact, et t'as des articles qui ont été sortis là-dessus, mais Capgemini, ils sont détenteurs d'un marché qui s'appelle le Cercle 3, qui permet à l'UGAP, donc l'UGAP, c'est la centrale d'achat de l'État. Ceux qui ont bossé dans une grande boîte ou des groupes, tu crées des centrales d'achat qui achètent et qui revendent en interne, en ayant obtenu et négocié des prix. Donc l'UGAP, c'est la centrale d'achat de l'État. Au moment où l'État s'est mis à vouloir acheter du cloud computing il y a quelques années, on s'est dit ce serait bien de passer par la centrale d'achat, parce qu'en fait, le modèle de marché public est quand même pas très bien construit si on veut acheter du cloud à la demande. Et donc, l'UGAP a pris le dossier et a fait ce qu'ils appellent le dossier Cercle 3 pour acheter du cloud computing. Et en fait, Capgemini a le marché et achète à X fournisseurs du cloud, tu vois. Et le revend à l'UGAP, qui le revend même aux différentes structures, collectivités territoriales, tout ça, machin. Le cercle 3 de l'État, pour rentrer dedans, c'est une décision Capgemini, DINUM, donc la direction du numérique, une sorte de DSI des DSI au niveau ministériel, si vous voulez, sous l'égide du Premier ministre. Quand tu contactes Capgemini, donc déjà, c'est la croix et la bannière d'arriver...
D'ailleurs, juste à faire une petite parenthèse, mais je crois qu'elle fait plutôt du bien pour essayer de pousser globalement et de normaliser un peu les choses.
Ils essayent de faire les choses bien, sincèrement. Tu parles avec Capgemini de rentrer dans le cercle 3 du Gap, et c'est compliqué. Alors déjà, le moindre meeting se cale en 2 mois. Quand tu les as au téléphone en 2020, on te dit on pourrait tabler pour une intégration en 2022-2023. Et après, tu as l'annonce de Bleu qui arrive. Et tu fais... Donc du coup, si je comprends bien, vous êtes jugé parti dans l'opération. Vous m'expliquez, enfin... Et tu vois, et t'es sur ce genre de truc où t'as envie de dire... Je comprends l'intérêt économique d'une boîte comme Capgemini à un moment, et je suis pas en train de décrédibiliser ce que fait cette boîte. C'est une très belle boîte de service. Mais à un moment, ne jamais favoriser tes acteurs locaux, c'est nécessairement une stratégie perdant à terme. Parce que tu fais partir les centres de décision, tu fais partir tes capacités à jouer sur la concurrence, tu fais partir ces points-là. Et donc, en fait, t'as besoin de ça. Donc aujourd'hui, le cloud de confiance tel qu'il est défini, moi, ça me va pas, parce que comment tu veux construire la fameuse French Tech, tu vois, à partir de ce moment-là, si à chaque fois, on va aller rogner sur les couches basses et se dire on va faire que le petit vernis du dessus. Enfin, la délocalisation dans l'industrie, on l'a vécu, on se l'est pris en pleine face et on parle de réindustrialisation du pays. On fait la même chose en informatique. Ça nous a pas suffi une fois. Et c'est à la fois une responsabilité politique, mais c'est une responsabilité de tous les acteurs. C'est tous les acteurs qui doivent bosser. Nous, on a écrit une tribune avec des amis qui a été publiée dans le Monde, qu'on appelle Don't Kill French Tech, où on te dit, genre, tu veux de la French Tech, c'est possible. Mais arrêtez de sagouiner les ingénieurs français. Parce qu'en fait, à un moment, les ingénieurs français, bah, vu qu'à un moment, on te propose quand même beaucoup d'argent pour bosser pour des boîtes étrangères, bah, tu le prends, parce qu'en fait, c'est même pas un problème de fric. C'est un problème de, c'est la dépression de bosser en France en tant qu'ingénieur, t'as pas le pouvoir, on t'emmerde, machin. Et comme de toute façon, on te demande de bosser pour la marge d'Amazon, bon, très bien, autant bosser pour Amazon, tu vois. Enfin, t'auras des stocks d'Amazon, ce sera aussi bien, tu vois. Et c'est ça, en fait, le point. Et je décrédibilise pas les ingénieurs qui le font, je leur en veux pas. Je leur dis juste qu'en fait, tous ensemble, on peut redresser la tête. Et en fait, le cloud de confiance français, il peut exister. Et en fait, on n'a pas perdu les métriques. Encore une fois, la guerre, elle n'a pas eu lieu.
D'accord. Écoute, est-ce que c'est un bon point final ?
Je sais pas, c'est à toi de me dire, parce que du coup, j'ai toujours un peu l'impression de prêcher pour ma paroisse. Et en même temps, je me dis que si on prêchait plus pour notre paroisse en France par rapport aux États-Unis, où, tu vois, je sais pas si tu as déjà vu les pitchs américains, il suffit de regarder une Apple Keynote pour se rendre compte de combien les mecs sont pushy et bullish sur ce qu'ils font. Je me dis qu'on n'est pas toujours aussi bon qu'on devrait l'être à nous pousser, nous, en fait. Ouais. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est pas un problème de violence et c'est pas un problème d'être contre. Moi, je suis pas contre, je suis avec. Moi, ce que je dis, c'est que la proposition qui est l'infrastructure as a service, elle est pas drôle. Elle m'a jamais amusé. Et technologiquement, elle m'a jamais amusé. Moi, ce qui m'amuse, c'est les modèles de full automatisation, et c'est toujours ce qu'on a fait chez Clever Cloud, et c'est ce qu'on fait d'autres gens. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, il y a toujours des Français derrière. Enfin, tu regardes Google App Engine, tu vas tomber sur Ludo, tu vois. Enfin, il y a même
beaucoup de Français. Il est arrivé après le début, quand même. Mais...
ouais, mais il a fait beaucoup.
Mais il a beaucoup poussé, voilà, depuis qu'il est là-bas, qu'il commence à faire, parce que c'est quand Sun s'est fait racheter par Oracle, donc ça commence à dater maintenant tout ça.
Ouais, bah non, il était depuis avant chez Google. Si, depuis plus longtemps chez Google. Hein. Il a bossé chez Sun, mais il est parti bien avant. Donc, en fait, si tu veux, t'as des vrais sujets, en fait, qui, à mon avis, sont pertinents. Et moi, ce que je dis, c'est que faire le cloud européen, c'est pas répliquer le cloud américain. Faire le cloud européen, c'est créer une autre façon de le faire. Peut-être d'autres services, peut-être d'autres choses. Et en fait, pour ça, il faut tous qu'on travaille. Il y a les fournisseurs et il y a les clients. Et dans le cas présent, je pense qu'il faut que les clients prennent leur rôle de client à cœur, de faire croître sur leur terrain les fournisseurs capables de le faire. C'est une réflexion qui se fait beaucoup en industrie. Donc, pour ceux qui suivent ce que je fais dans la vie au quotidien, j'ai eu quand même beaucoup d'impact industriel ces derniers 18 mois de ma vie, et du coup j'ai compris encore plus de choses dans l'industrie. En industrie, il y a un truc qui se fait, c'est de faire croître tes fournisseurs, parce que tu veux des bons fournisseurs, tu veux multiplier tes chaînes d'approvisionnement, tu veux tout ça. Et je pense que l'informatique aujourd'hui, à apprendre de l'industrie, sur la capacité à créer des chaînes, des value chains et des chaînes de valeur qui sont stables, pérennes, financières, qui rapportent de la marge. Et je pense que c'est intéressant de le faire. Et voilà. Et après, si vous n'êtes pas d'accord, ça me va aussi. Je suis ouvert au débat là-dessus. Mais je pense que tous les Français peuvent nous aider à créer quelque chose qui, au global, sera meilleur pour le monde.
Moi, je pense qu'il y a un problème de synthèse de ce point de vue. Donc, j'espère que le podcast a participé. En même temps, il fait une heure et demie. Donc, on a un peu de taf au niveau de la synthèse, mais parce qu'en fait, c'est ça, c'est des points. Il y en a pas beaucoup. Hein. On peut peut-être résumer ça en 5 minutes, 2 points clés qui s'enchaînent clairement. Mais ce travail est important parce que comment tu retiens ça ou que tu peux te le faire rappeler en 5 minutes à chaque fois pour que ça finisse par faire la petite graine et que ça avance, tu vois. Et que ça se multiplie. Parce que, tu vois, j'entends ça et moi, je m'imagine dans une semaine avoir oublié beaucoup de choses de ce que tu as dit, tu vois.
En fait, je pense que si je te le résume, les points, c'est quoi ? C'est avoir une industrie forte de l'informatique et des bases informatiques, que ce soit l'édition logicielle, que ce soit l'hébergement, que ce soit la création de services au-dessus, en France, elle est importante parce que c'est l'économie de demain, c'est la révolution industrielle de la prestation intellectuelle, et donc c'est une force informatique monstrueuse. Aujourd'hui, on nous vend qu'on a déjà perdu ce combat, alors que c'est pas vrai, et on le sait tous, en fait, autour de la table. Je vous ai donné les chiffres. C'est un combat qui est encore à faire et qui est important. Et pourquoi c'est important d'avoir ça ? C'est un problème économique. C'est un problème de confidentialité de la vie privée, mais aussi de la compétitivité des autres boîtes sur la confidentialité économique. C'est un problème de économique, de gestion du pays à cause de l'exil fiscal, qui est encore une fois un problème légal que les gens doivent apprendre à traiter au niveau légal, mais néanmoins, on peut nous imposer une moralité dessus. Et tout ça forme un truc qui est la souveraineté technologique française et européenne. Elle est importante pour préserver notre cadre de vie et notre culture. Et je pense que c'est ça le point important, parce que ce soit l'analyse, si tu veux, de la data, ou l'analyse économique, ou l'analyse de faire attention à cet abus de position dominante qui nous arrive dans la tronche et qui va nous créer des monopoles non cassables, qu'on soit en Europe ou qu'on soit aux États-Unis. Je pense que c'est important pour notre cadre à tous que tous ensemble, on prenne conscience de ce point-là.
Donc après, l'étape d'après, c'est... Si Quentin était chef de l'univers, alors, qu'est-ce qu'il ferait au niveau de l'État ? Voilà. Qu'est-ce qu'il ferait au niveau des grands groupes ? Donc les grands groupes, on en a parlé juste un peu avant. Et au niveau de l'État, on voit que toi, ce que tu dis, c'est qu'ils ont plutôt une vue court-termiste, et en tout cas, ils ignorent l'approche économique moyen terme.
Parce qu'ils sont la vaisselle par des gens, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les gens...
En même temps, leur métier, c'est pas expert économique, pas expert technique, tu vois, leur métier, c'est politique.
Tout à fait. Et puis, et c'est très très dur comme boulot, et en fait, les gens qu'on a face à nous sont des gens brillantissimes. Moi, la façon je bosserai, la première chose que je ferai, c'est je ferai un équivalent du Small Business Act. Le Small Business Act, c'est une loi américaine qui dit que l'État est obligé d'acheter un pourcentage de sa commande publique à des petites boîtes. Et ils le font pour une raison qui est simple, permettre aux petites boîtes de se développer pour qu'elles deviennent des grosses boîtes. Moi, je pense que l'État français devrait faire la même chose. Et je pense que ça simplifierait des problèmes dans plein de marchés. Je pense qu'il faudrait une incitation fiscale pour que les grands groupes français et étrangers sur le sol français soient incités à faire la même chose. C'est-à-dire diminuer les cascades de fournisseurs qui vont de plus en plus petits, avec des gros fournisseurs qui prennent le risque sur les petits, de façon à rapprocher la vie économique des petites entreprises. Et ça, je pense que ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est je me mettrai en infraction de la libre concurrence en disant tel marché, il est réservé à des entreprises européennes, fin de la discussion. Avec des technologies européennes, je veux des technologies européennes.
En achat d'État.
En achat d'État et en achat de grosses boîtes, tu vois, sur les OIV, sur les opérateurs d'importance vitale. La chose suivante que je ferai, c'est je forcerai la collaboration. Aujourd'hui, les petites boîtes françaises, même les grosses boîtes françaises de notre domaine, ont du mal à bosser en collab parce qu'ils y sont pas forcés. Tu prends un truc comme le Health Data Hub, en fait, tu pouvais tout faire en France, mais en plusieurs boîtes, et ce qu'il fallait, c'était une offre unifiée et obliger les gens à bosser ensemble. Et ça n'a pas été fait, c'est dommage. En fait, il aurait suffi de mettre tout le monde autour de la table et de dire « Je veux que vous bossiez ensemble. Vous n'avez pas le choix. »
Tu pourrais argumenter que Andromède, c'était ça.
Non, c'était que des grosses boîtes.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'État qui dit « Vous allez bosser ensemble et vous allez me sortir un truc. Moi, je veux mon cloud souverain. » Et puis, ils ont dit oui. Et puis après, c'était Astérix.
C'est ça. Grosse baston. Mais là, tu les obliges à faire la collab et tu vas dire à des boîtes qui aujourd'hui passent leur temps à te dire « Mais on va faire pareil. » En fait, toutes les boîtes vont y arriver à un moment à sortir le même produit que nous, par exemple. Ça va leur prendre combien de temps ? En fait, le problème est toujours là, c'est la vélocité, le problème. Et c'est travailler ensemble, bosser ensemble. Et je pense que je forcerai les boîtes à bosser plus ensemble là-dessus. Après, je ferai un gros focus sur le côté des impôts. Mais ça, pour le coup, c'est plutôt bien fait par Bruno Le Maire. C'est la taxe GAFAM, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment sur l'impôt sur les sociétés minimum, etc. Et ça, c'est quelque chose de positif qui est en train de se créer. Moi, j'essaierai d'aller plus vite là-dessus, mais j'imagine que c'est très compliqué comme enjeu. Et je voudrais pas avoir l'air de dire genre il suffit, il y a qu'à Faucon. C'est un enjeu compliqué, mais je pense que ce serait un gros focus. Et après, c'est con, mais je changerai les modèles d'attribution, de financement de l'innovation, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à financer la vraie innovation de rupture, et je flécherai l'innovation comme étant financé sur les ingénieurs. En France, les catégories dirigeantes sont faiblement issues des milieux d'ingénierie et ont tendance à se reproduire entre eux, ce qui est normal. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas une critique. Ce qui se passe est normal. Là, tu vois. Mais financer ta boîte quand t'es ingénieur en France, c'est très difficile. Moi, toute ma vie, ce que j'ai entendu dire, que ce soit par des organismes publics ou par des venture capitaux français, c'est ouais, mais t'es ingénieur, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve un CEO et toi, tu passes CTO. Alors que c'est statistiquement une erreur, tu vois. Je veux dire, que tu prennes tous les GAFAM, Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, ce ne sont que des ingénieurs, les fondateurs, et qui ont été à la tête de la boîte pour la croissance. Il n'y a que des ingénieurs qui forment des GAFAM. 100% des GAFAM sont des boîtes. L'idée est dirigée par des ingénieurs. Donc, ne pas investir dans des boîtes d'ingénieurs te garantit le fait de ne pas créer de GAFAM d'un point de vue statistique. C'est incroyable, tu vois.
Ouais.
Et aujourd'hui, on te dit qu'il faut que la boîte soit tenue par un commercial. Et je ne dis pas que les commerciaux sont des mauvais. Je dis juste que pour créer une boîte aussi structurée, automatisée, qui est une telle machine à produire du cash, c'est comme ça qu'il faut voir un GAFAM aujourd'hui. C'est une usine à produire du cash qu'un GAFAM. Bah, en fait, il faut un ingénieur.
Et dernier point, pour changer cette culture du « on va réinvestir ». Parce qu'il y a cette culture française dans les petits et les pas si, enfin dans les grosses et pas si grosses boîtes de « moi, je préfère mettre mes mecs à moi plutôt que qu'acheter votre produit » ou plutôt que, comme tu dis, racheter la start-up pour être sur le marché directement.
C'est ça. Et ça, c'est ça, en fait, c'est la capacité à comprendre la vélocité. En fait, c'est ouais. On a souvent une analyse économique qui ne prend pas en compte la vélocité. Alors que la vélocité est tout, et d'autant plus dans nos marchés, où en fait, les gloires et les défaites se font à toute vitesse, et où notre droit ne comprend pas la vélocité. C'est ce que je disais sur les mesures conservatoires. Et enfin, je peux te présenter des gens avec qui on parlait, si tu veux, qui sont plus qualifiés que moi sur le sujet. Notre commerce ne comprend pas, et l'adéquation économique des boîtes ne comprend pas ça. La vélocité, avant tout. Et en fait, tu peux dépenser énormément d'argent pour la vélocité. Tu vois, quand Amazon rachète Twitch, une fortune, ou quand Facebook rachète WhatsApp, je crois vraiment que personne chez Facebook était capable de faire un putain de messagerie. Bien sûr que si, ils en avaient déjà 3 en interne. Mais quelle quel est l'apport de vélocité de racheter WhatsApp? Énorme. Énorme.
Là, tu parles de la vélocité d'acquisition de clients, en fait. Là.
D'acquisition d'un produit qui est nif, tu vois. Il y a faire une messagerie et faire une messagerie utilisée par des dizaines de millions de personnes. Où t'as corrigé plein de détails, tu vois. Qui sont des mini frustrations qui machin et qui empêchent ta vélocité. Tu vois, c'est la fameuse règle des 80-20. En fait, pour faire un produit de GAFAM, bah en fait, il faut aller à 100%. Et donc ça veut dire niquer les 20 derniers pourcents qui te prennent toujours une putain d'éternité, tu vois. Tous ces micro détails à la con du mec de chez Google qui a fait le benchmarking d'affichage de l'ensemble des bleus pour te dire on va utiliser tel bleu parce qu'il est plus rapide de temps et qu'en fait il a passé 4 mois à réfléchir à quel putain de code couleur bleu fallait mettre sur un écran dans le logo Google, tu vois. C'est ces micro pouillèmes là qui coûtent cher et qu'il faut racheter des petites boîtes parce qu'en fait eux ont eu la vélocité.
Allez, on va arrêter là. Merci Quentin.
Merci à toi. Merci beaucoup de vous intéresser à ce domaine-là. Et n'hésitez surtout pas à venir en débattre avec moi. Et merci encore une fois.
Voilà, en attendant d'être tous physiquement dans une conf autour d'une bière, parce que il n'y a que là que Quentin excelle. Enfin, c'est là que Quentin excelle.
Ce qui aura lieu à Devox France.
Ce qui va dans un univers un peu plus confiné, mais ça, c'est le début. C'est le début.
C'est le début du retour.
Le début du retour. Allez, bisous à tous. Et puis, discutez sur les cas scolaires, le Google Group, par exemple. Voilà, il y a d'autres forums où les gens pourraient échanger là-dessus, à part te DMer sur Twitter.
Non, mais c'est bien, les cas scolaires, Group, et puis Twitter, c'est bien. Et puis, surtout, n'hésitez pas. Moi, je suis ouvert à cette idée et on a besoin de nouvelles idées, donc n'hésitez surtout pas à venir en parler. Faut pas prendre le sujet comme étant un affrontement, faut prendre le sujet comme étant un cadre collectif dans lequel on doit tous s'entendre.
Ouais. Ça marche. N'ayez pas Merci peur de la grosse barbe de Quentin. Il sait écouter aussi. Allez, ciao.
Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.